Vous êtes sur RTL.
Vous donc jusqu'à 9h30, bonjour Yves.
Merci beaucoup Julien, bonne journée à vous et à toute l'équipe des Petits Matins et bonjour à tous. Les parents du caporal Arthur Noyer prennent la parole ce matin sur RTL et ce à une semaine du procès de Nordal Lelandais, accusé du meurtre de leur fils, un témoignage exclusif et extrêmement digne. Vous pourrez le retrouver dans son intégralité à 8h20. Cette rencontre a été réalisée par notre correspondant à Grenoble, Serge Puyot. Invité politique de la matinale d'RTL ce matin et à 7h40, Philippe Devilliers qui vient de publier son nouveau livre « Le jour d'après » aux éditions Albin Michel, il répondra bien entendu aux questions d'Alba Ventura. Mais avant toute chose, je veux attirer ce matin votre attention vers un rayon de soleil et de respiration. Oui, nous partirons en vacances cet été et oui, ceux qui le souhaitent pourront parcourir l'Europe grâce au fameux certificat vert. Bénédicte Tassard va nous donner tous les détails à 7h15 et cerise sur le gâteau, ou plutôt sur la feta, notre correspondante en Grèce, Alexia Kefalas, nous emmène sur l'île de Kea. Sur place, les habitants seront tous vaccinés d'ici la fin de la semaine. 60 îles le sont déjà. Et vous entendrez cette habitante qui n'avait jamais été vaccinée de sa vie et qui évoque le vaccin que tant de Français rejettent comme le vaccin de la liberté. Je n'ai rien à ajouter. Nous sommes le mardi 27 avril 2021. Très bonne journée à tous sur RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce sera donc leur seule prise de parole avant le début du procès. Les parents d'Arthur Noyer s'expriment ce matin sur RTL.
Dans une semaine sera jugé Nordal Lelandais, le meurtrier présumé de leur fils. Ils espèrent pour la première fois des aveux. La barre des 6000 patients désormais dépassée dans les services de réanimation du jamais vu depuis un an. Pour autant, Emmanuel Macron maintient son calendrier et la réouverture des terrasses dans 3 semaines. C'est déjà le cas en Italie où les restos, les bars, les cinémas ont repris du service hier. Reportage à suivre. Méfiez-vous des jus 100% fruits ou des thés glacés spécial détox derrière ces appellations pompeuses. Du sucre par kilo, nous allons y revenir. Et puis le retour de la Ligue des Champions. Première demi-finale ce soir, Real Madrid-Chelsea. Et premier match depuis le fiasco de la Super League.
La politique, Olivier Bost.
Et nous allons parler ce matin de lourdes fautes politiques et essayer de comprendre pourquoi de telles erreurs.
Ce sera dès la fin du journal.
RTL Matin.
Et d'abord, donc ce document RTL à une semaine du procès de Nordal Lelandais pour le meurtre présumé de leur fils. Les parents d'Arthur Noyer choisissent ce matin de prendre la parole. À partir du 3 mai, ils feront face à celui qui n'a jamais reconnu sa responsabilité directe depuis le début. Lelandais se contente d'évoquer une bagarre qui aurait mal tourné. Une thèse à laquelle ne croient pas Cécile et Didier Noyer. Des semaines qu'ils se préparent à ce face-à-face forcément douloureux. Ils se confie ce matin au micro de Serge Puyot.
Ça fait 4 ans qu'Arthur est mort. Il faut qu'à un moment, on croise son assassin et puis qu'il soit jugé.
J'ai la conviction que c'est un assassin.
Vous voulez que la vérité apparaisse durant ce procès ?
Oui, mais est-ce qu'on l'aura, cette vérité ? Celui qui connaît la vérité, ben, c'est Arthur, et il n'est plus là. Mais j'attends rien, Lelandais, hein. J'attends rien. Je ne suis pas sûre qu'il ait évolué dans ce qu'il est. De lui, j'attends rien.
Et avec notre conviction, notre force, la force d'Arthur, qui est évidemment toujours omniprésente en nous, on va faire face.
Justement, il y a des choses qui vous révulsent. Quand Lelandais dit que c'est Arthur qui, le premier, l'a frappé.
Et il n'a qu'à porter plainte aussi. Qui porte plainte ? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, ça paraît tellement énorme. Sauf qu'il y en a un qui est mort et pas l'autre. C'est tout. Comme dirait Cécile, nous, on a pris perpétuité, quoi. Et bien, si l'autre pouvait prendre au minimum perpétuité, quoi. Et ben, ce serait peut-être pas mal, quoi.
Arthur manque. Voilà, enfin... Arthur, on le reverra plus. Je vais pas le voir vieillir. C'est moi qui l'ai enterré. Et le seul responsable, c'est l'autre. C'est lui qui est le responsable de tout ça.
Témoignage recueilli pour RTL par Serge Puyot et à retrouver en longueur à partir de 8h20. Il est 7h03, c'est donc un cap qui n'avait pas été franchi depuis un an. Il y a désormais plus de 6000 personnes hospitalisées dans les services de réanimation français.
Près de 500 nouveaux malades admis en 24 heures et 400 décès. Le gouvernement nous promettait pourtant il y a quelques jours des chiffres qui allaient s'améliorer. Virginie Garin, les courbes pour l'instant disent le contraire.
Alors, il y a une baisse du nombre de nouveaux cas, c'est lent, mais la courbe repart vers le bas. Cela dit, certains médecins font remarquer qu'il y a aussi depuis 15 jours beaucoup moins de tests, plus d'un million en moins par semaine. Si on teste moins, évidemment, ça fait moins de cas. Il vaut mieux regarder donc la réalité dans les hôpitaux. Il y a une légère baisse des nouvelles hospitalisations, lente, mais le nombre de personnes en réanimation continue d'augmenter. Donc on va alléger les mesures, rouvrir les écoles avec 6000 malades en soins critiques. Le 11 mai dernier, jour du premier déconfinement. Ils étaient plus de deux fois moins. Il y avait 2700 personnes en réanimation. Alors, la différence, ce sont les vaccins, mais on est encore loin d'en voir les effets. Un Français sur cinq seulement a reçu au moins une dose. Il en faudrait trois fois plus pour espérer une immunité collective. Donc, vaccinez-vous. Il y a ce matin plus de 220 000 créneaux disponibles en France.
Merci Virginie Garin. La vaccination, d'ailleurs, les pilotes de ligne demandent à y avoir accès en priorité, eux qui sont amenés à voyager dans des zones à risque. Leur syndicat national appelle d'ailleurs les pilotes d'Air France à boycotter pour l'instant les destinations où l'épidémie est hors de contrôle, l'Afrique du Sud, le Chili ou encore l'Inde, tant qu'ils ne seront pas vaccinés. Des indicateurs fragiles, donc, vous l'entendiez, qui pour autant ne remettent pas en cause l'agenda du déconfinement. Emmanuel Macron a confirmé hier le calendrier, accueil des collégiens et des lycéens dans les établissements dès la semaine prochaine, et puis réouverture des terrasses dès la mi-mai, les salles des restaurants, ce sera en juin et en fonction des régions.
La France suit donc le chemin de ses voisins où les restrictions tombent en fait petit à petit.
Et début avril, les Anglais retrouvaient le plaisir d'une pinte en terrasse. Hier, ce sont les Italiens qui ont pu goûter de nouveau aux joies d'un déjeuner en plein air. Le reportage à Rome de notre correspondant Olivier Bonnel.
Sur la place Campo dei Fiori, au cœur de la ville éternelle, les étals du marché ont fait place aux tables des restaurants. Béatrice est venue déjeuner au soleil avec son mari.
On prend nos précautions et on essaie de savourer un maximum. On en a profité pour faire un tour du centre, c'est très agréable.
Les mesures restent strictes, de l'espace entre les clients et pas plus de 4 couverts par table. Pour les Romains, ces airs de Dolce Vita se sont prolongés jusqu'à 22h, heure fixée du couvre-feu. Pour ce groupe d'étudiants installés au bar d'une ruelle du centre, l'heure est venue de trinquer pour ces retrouvailles.
On avait vraiment hâte de se retrouver. Petit à petit, la situation va s'améliorer et ce sera bientôt la liberté pour tous.
Ouverture puis reconfinement, plus ou moins strict selon les régions. Ces dernières semaines, l'Italie n'a cessé de faire le yo-yo en matière de restrictions. Comme durant les mois de confinement, police et protection civile ville veille de près à ce que les règles soient strictement respectées. Le prix pour que l'été soit vraiment la saison du renouveau en Italie.
Olivier Bonnel à Rome pour RTL. Cette fois, c'est en justice que la guerre va se poursuivre. L'Union européenne entame une action contre AstraZeneca à qui elle reproche les délais de livraison et les promesses non tenues. 30 millions de doses livrées au premier trimestre contre 120 millions commandées. Le laboratoire juge cette action sans fondement. Et puis les premières cargaisons d'aide médicale sont arrivées ce matin en Inde en provenance du Royaume-Uni, alors que l'Organisation mondiale de la santé appelle de nouveau à l'entraide internationale.
Boisson enrichie en sucre, appellation trompeuse, une association de consommateurs veut faire le ménage dans le monde soi-disant merveilleux des jus de fruits. On vous explique tout ça dans un instant sur RTL.
Yves Calvi sur RTL. RTL Matin.
7h08, la suite du journal de Dominique Tenza. Souvent présentées comme des boissons saines et savoureuses, méfions-nous pourtant des jus de fruits, y compris lorsqu'ils sont sans sucres ajoutés.
Oui, car du sucre, ils en contiennent déjà beaucoup. Loin d'être diététiques, ces nectars, ces smoothies sont de véritables bombes glycémiques, Armelle Lévy.
Et oui, les jus de fruits et autres smoothies contiennent en moyenne 10% de sucre. Et les petites briques de jus de 20 centilitres pour les enfants peuvent contenir jusqu'à 3 morceaux de sucre. Lisa Follet, de la CLCV, a repéré d'autres mauvaises surprises dans ces boissons.
Ces produits-là, qui ont une image plutôt saine, sont finalement pas très bonnes d'un point de vue nutritionnel. Elles sont globalement majoritairement notées D sur l'échelle du Nutri-Score, qui va de A à E, parce qu'en fait, c'est des boissons qui sont très sucrées. En plus de ça, on voit qu'il y a une certaine technique de dissimulation de certains produits par les industriels, c'est-à-dire que vous pensez acheter un jus de pamplemousse ou un jus d'ananas gingembre, donc avec des fruits plutôt haut de gamme, un peu prestigieux, puis en fait on se rend compte en retournant l'emballage, en regardant la liste d'ingrédients, que vous buvez majoritairement du jus de pomme et du jus de raisin, qui ne sont pas du tout représentés à l'avant de l'emballage et qui sont moins chers pour le fabricant.
L'association demande aux industriels plus de transparence sur les emballages et surtout de ne plus afficher les mentions revitalisantes, riches en fibres ou antioxydantes, alors que ces boissons sont surtout riches en sucre et donc à consommer avec modération.
Armel Lévy pour RTL.
Du foot ce soir, Real Madrid de Chelsea, c'est la première demi-finale de la Ligue des Champions.
Et première sortie européenne des Espagnols depuis le fiasco de la Super League. Les deux équipes faisaient d'ailleurs partie des dissidents, désireux de créer leur propre compétition, mais le Real, c'est vrai, en avait pris la tête. Et le club redoute désormais d'en payer les pots cassés. Et si l'UEFA choisissait de sanctionner les frondeurs? C'est ce que craignent les supporters que vous avez rencontrés, Mathias Valton.
Oui, la peur et la paranoïa se sont emparés des supporters du Real Madrid. Depuis le tollé de la Super League, défendu et incarné par leur président Florentino Pérez, les fans du Real sont persuadés que l'UEFA va tout faire pour pénaliser et faire perdre leur équipe en Ligue des Champions, comme le résume Carlos, président de la Peña La Clasica.
Bien sûr que le Real Madrid va être désavantagé. Les arbitres ne vont rien laisser passer et dès qu'ils le pourront, ils vont siffler pénalty contre nous. C'est sûr qu'il va y avoir des représailles après ce qu'il s'est passé. L'UEFA va tout faire pour nous empêcher d'arriver en finale.
Agacé par cette polémique sans fin, Zinedine Zidane lui croit toujours en l'impartialité des instances et assure que le salut de son équipe passera uniquement par le jeu.
L'arbitre va faire son job et nous on va faire notre job. Le reste en fait ça va rien changer du tout. Ce qui changera c'est ce qu'on va faire nous sur le terrain. Le plus important c'est de se concentrer sur notre travail. Le reste ça nous intéresse pas.
Mais le Real ne sera pas le seul club à concentrer toutes les critiques ce soir. Chelsea, son adversaire, faisait lui aussi partie de la Super League. Plus qu'une demi-finale, on se dirige donc vers un duel entre deux parias du football européen.
Mathias Valton en Espagne pour RTL.
Les courses, elles ont lieu, Dominique, à Bordeaux-le-Bouscat.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 13, le 3, le 2, le 7, le 16 et le 14. La dernière minute, c'est le 3, gris d'argent.
Le journal de 7h nous était proposé par Dominique Tenza sur RTL.
RTL Matin. Yves Calvi.
Il est 7h11, bonjour Olivier Bost.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous relevez ce matin des fautes politiques lourdes et vous pensez d'ailleurs que ce n'est qu'un début, Olivier,
oui,
expliquez-nous.
Oui, parce qu'il faut se méfier quand les campagnes électorales ne sont pas franchement ouvertes, ça peut pousser à de grosses erreurs. Commençons par Marine Le Pen ce matin. Voilà que la présidente du Rassemblement National répond à une tribune dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Des généraux à la retraite menacent d'une reprise en main militaire face au délitement de la France. 60 ans tout pile après le putsch des généraux contre le général de Gaulle. En réaction, Marine Le Pen invite ses militaires putschistes à la rejoindre. Jusque-là, elle a toujours gardé une distance avec tout appel à l'insurrection ou avec les éléments les plus factieux des Gilets jaunes. Elle évitait soigneusement tout ce qui était hors du champ démocratique. Comme elle l'explique elle-même, les Français ne veulent pas de radicalité. Et là, pourtant, elle tombe dedans pour séduire un public déjà acquis. Florence Parly, la ministre des Armées, a dénoncé ce rapprochement hier. Les proches de Marine Le Pen assument quand même la démarche. Avec ce soutien, en fait, c'est le retour au Front National et aux vieux amours de l'extrême droite. Après des semaines, des mois même de travail sur son image, un long travail de crédibilisation pour rassurer des électorats qui, pour le coup, ne le sont pas acquis, Marine Le Pen commet une faute politique.
C'est pas la seule, c'est ça ?
Bah oui, alors dans un tout autre genre. Hein. L'autre faute politique de ce week-end est signée Julien Bayou. Il est le patron du parti Europe Écologie Les Verts et candidat à la présidence de l'Île-de-France. Lui, pour inciter les jeunes à voter, s'en prend aux boomers. Les boomers, c'est la génération née entre 45 et 60, jeunes retraités qui ne voteraient pas écolo parce que cette génération n'en aurait rien à faire. Au-delà des clichés, il faut noter l'incroyable mépris pour un électorat. Julien Bayou s'en est excusé avec une formule, alors pour le coup pas très courageuse. « Je n'avais pas validé l'affiche », a-t-il dit, mais j'en prends la responsabilité.
Bravo.
Il n'a pas reçu beaucoup de soutien de ses amis écolos, non. C'est un signe. Il y a là en fait un condensé d'une vision sectaire de l'écologie. Julien Bayou, c'est l'écologie éternellement militante, mais jamais aux responsabilités. Dans un autre genre donc, c'est aussi une faute politique.
Comment expliquez-vous tous ces faux pas que vous nous désignez ce matin ?
Alors c'est très simple, le moment n'est pas politique, enfin pas encore totalement politique. L'impatience, l'impossibilité de capter l'attention poussent à des querelles stériles, des stratégies hasardeuses et de vraies fautes politiques. Entre ceux qui font appel à des retraités et ceux qui les rejettent, il faut faire attention, le vernis craque assez vite dans la période. D'autant que la situation sanitaire épuise tout le monde jusqu'à anéantir toute envie de se projeter dans une élection, quelle qu'elle soit. Les seuls qui s'y risquent s'y abîment et ça ne fait que commencer.
Merci beaucoup Olivier Bost, on vous retrouve sur le site rtl.fr. Je vous rappelle que l'invité politique de notre matinale est ce matin Philippe de Villiers qui répondra aux questions d'Alba Ventura à partir de 7h40. Dans un instant, nous allons nous projeter ensemble sur l'été, sur nos vacances. Vous allez l'entendre, ça va nous faire le plus grand bien. Bénédicte Tassard de notre brigade de l'actualité nous dira tout sur la vaccination et sur les règles en cours de discussion au niveau européen. Et puis notre correspondante en Grèce, Alexia Kefalas, nous emmènera elle dans les Cyclades, où les Grecs se font vacciner avec l'espoir d'accueillir les touristes cet été. A tout de suite sur RTL.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour répondre à toutes vos questions.
7h, 9h30. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Et il est 16h16. En cette période d'incertitude et parfois même de morosité dans nos vies quotidiennes, tendez l'oreille car ce reportage va nous remonter le moral. Direction la Grèce qui rouvre progressivement ses frontières malgré une légère augmentation des cas de coronavirus. Les Grecs ont toujours une limitation des déplacements, mais les touristes, eux, peuvent commencer à arriver. Le tourisme pèse pour près de 25% du PIB de la Grèce. Bonjour Alexia Kefalas.
Bonjour.
Nous vous suivons sur l'île de Kéa, dans les Cyclades, où d'ici la fin de la semaine, la totalité des habitants de l'île seront vaccinés, dans l'espoir de pouvoir accueillir très rapidement les touristes.
Chers passagers, nous arrivons à Kéa. Merci de ne pas oublier vos bagages et de garder vos distances.
Oui, à quelques encablures d'Athènes sur l'île de Kéa dans les Cyclades, alors que le soleil dort déjà les plages de sable fin, les premiers baigneurs testent l'eau cristalline. Sur les jolies collines parsemées de maisons de pierre, Katerina, elle, s'active. Elle loue chaque été des villas avec piscine et son téléphone recommence enfin à sonner.
Non, ne vous inquiétez pas, vous avez juste besoin d'un test PCR négatif. Oui, ça suffit. Les réservations commencent. Je suis ravie, après tant de mois d'inertie, on a hâte de voir du monde.
Le gouvernement grec a décidé de lancer sa saison touristique dès le 15 mai prochain, soit avant tout le monde. Mais déjà, les mesures de déconfinement s'accélèrent pour les visiteurs européens et ceux de 5 pays, dont les États-Unis, comme la fin de la quarantaine de 7 jours. Il suffit de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou alors un certificat de vaccination. Pour Leftelis, gérant de l'hôtel Kéos, la sécurité sanitaire est primordiale pour sauver le tourisme, deuxième pilier de l'économie grecque, qui emploie un actif sur 5 et concerne 150 secteurs.
Le tourisme, c'est 22% du PIB en Grèce. Et ici, à Kéa, nous sommes de plus en plus à en vivre exclusivement. Il faut qu'on soit l'île sans Covid.
Et pour cela, le gouvernement mise sur la vaccination. D'ici la fin de la semaine, l'intégralité de l'île de Kéa aura été vaccinée.
Allez, on respire.
Dans l'unique petit centre hospitalier de l'île, les piqûres s'enchaînent. Katerina se fait vacciner pour la première fois de sa vie.
Ça y est, c'est fini. Enlève cette seringue de ma vue. Je suis contente parce que j'ai reçu le vaccin de la liberté. Après 10 années de crise, la pandémie a tout gelé depuis 2 ans. Le vaccin est donc notre seul espoir pour revoir les touristes.
Les habitants de 60 îles grecques ont déjà été vaccinés et ils le font dès l'âge de 18 ans. Mais l'appel à recevoir le sérum s'adresse aussi aux propriétaires de maisons de vacances à Kéa. Et l'adhésion semble assez forte, puisqu'aucune dose ne reste sans preneur. Kostas, infirmier en chef de Kéa.
Les gens et surtout les jeunes étaient assez réticents au départ. Mais au fur et à mesure, ils ont compris qu'il n'y avait que des avantages et que le retour à la vie normale passait par le vaccin.
Après les commerces, ce sont les terrasses des bars et des restaurants qui vont rouvrir dès le 3 mai prochain. Devant le petit port, Lazaros, lui, vient de repeindre sa taverne blanche à la chaux. Il retrouve le sourire.
Je nettoie la poussière pour enfin rouvrir.
Alors que les premiers vacanciers vont bientôt arriver sur le port de Kéa, comme dans le reste du pays, la Grèce affirme être prête. Cette semaine, la vaccination AstraZeneca s'ouvre aux 30-49 ans. De quoi passer à la vitesse supérieure pour le pays qui a déjà fait vacciner plus d'un quart de sa population.
Merci beaucoup Alexia Kefalas, correspondante d'RTL en Grèce, où l'on adhère massivement, vous l'avez entendu, au vaccin de la liberté. Et ce reportage nous pousse à nous demander si nous allons pouvoir partir tranquillement en vacances cet été au-delà de nos frontières. Le Parlement européen doit voter demain le texte législatif instaurant le certificat vert européen. Et en France, on teste actuellement le pass sanitaire sur les liaisons vers la Corse. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous.
Le certificat vert européen, ça avance vraiment?
Alors vous l'avez dit, il est dans les mains du Parlement européen. À partir du 17 juin, normalement, pour voyager en Europe, vous aurez donc un QR code indiquant si vous êtes vacciné, si vous venez d'effectuer un test PCR négatif ou si vous avez été malade récemment et donc encore immunisé. Tout le monde concerné, même les enfants, mais les eurodéputés veulent ajouter des garde-fous supplémentaires au texte. D'abord pour des raisons d'égalité, il faudrait que les tests soient remboursés partout. C'est le cas en France, mais ailleurs dans l'Union européenne, le prix d'un test peut grimper jusqu'à 200 euros. Les jeunes Européens qui n'ont pas les moyens de se payer ce test seraient bloqués chez eux. Réticence aussi sur la collecte des données personnelles, sur l'hébergement de ces données, sur quelles applis, comment les contrôler. Et puis il y a l'usage de ce certificat vert. Si un pays s'en sert pour les entrées dans les musées, qui dit qu'il ne va pas aussi exiger ce certificat, par exemple, pour les demandeurs d'emploi. Attention aux libertés fondamentales, préviennent les députés européens.
En tout cas, en France, Bénédicte, on se prépare avec l'appli Tous Anti-Covid.
Oui, alors depuis jeudi dernier, Français Air Corsica expérimentent sur leur vol vers la Corse l'appli à laquelle on a rajouté un carnet stockant la preuve d'un test antigénique, d'un test PCR, un certificat de rétablissement du Covid ou encore très bientôt une attestation de vaccination.
Qui va nous fournir ce document, Bénédicte ?
Eh bien, tous les organismes habilités à faire le test vont faire remonter les informations à l'assurance maladie, puis vous recevrez un SMS pour récupérer cette preuve. Ce sera pareil pour la vaccination. Les agents des aéroports sont équipés pour scanner votre QR code, version numérique ou version papier. Donc, c'est en cours pour la Corse, bientôt pour les territoires d'outre-mer et ensuite l'ensemble de l'Union européenne, normalement mi-juin. La France est donc le premier testeur de cette facilité de circulation.
Les autres pays européens, eux aussi, préparent l'été ?
Oui, tout le monde essaie de préparer l'été. Au Danemark, ce n'est pas un QR code, mais un passeport sanitaire qui est exigé pour entrer chez le coiffeur, dans un bar ou un musée, un Corona Pass pour les plus de 15 ans. L'Espagne, elle, organise déjà une longue, très longue arrière-saison jusqu'en novembre pour attraper les touristes. Et juste à côté de chez nous, les Britanniques annoncent une reprise des vols internationaux. Ça sera le 17 mai prochain.
Vous nous avez fait du bien. Merci beaucoup, Bénédicte Tassin, pour ces explications.
Je reviendrai.
Très clair. Bah oui, quand vous voulez. Et qui nous ouvre quelques perspectives plutôt réjouissantes pour notre été dans toute l'Europe. Dans un instant, notre météo avec Louis Bodin, les grosses têtes que nous allons retrouver. Et puis, bien entendu, Anthony Martin et une nouvelle pépite. Bonjour, Anthony.
Bonjour, Yves. Bonjour à tous.
À tout de suite.
Ouais, tout de suite.
RTL Matin.
RTL Matin. Yves Calvi.
7h24, notre pépite musicale avec vous, Anthony. Bonjour.
Bonjour. Alors, on va démarrer en douceur.
Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur.
S'il y a un morceau qui a marqué nos années 80, je pense que vous êtes d'accord, c'est bien celui-là.
Bibi,
tout doucement, interprété par la chanteuse ghanéenne de son vrai prénom Béatrice. Elle ne parlait pas du tout français, elle avait appris le texte phonétiquement. Cette chanson, qui réussit l'exploit de nous parler en même temps d'amour et de séparation, est devenue un tube gigantesque en 1985, signé Jean-Paul Dréau. On lui doit aussi le coup de soleil pour Richard Cocciante. Bibi, qui pour le coup parle anglais, avait également enregistré une version anglaise de tout doucement. Et il existe aussi une version italienne de la chanson, mais qui n'avait pas été confiée à Bibi. La version italienne avait été proposée à l'époque en 1985 à Dalida. La star l'a immédiatement enregistrée. C'est notre pépite du jour, tout doucement en italien, devient Semplicemente Così par Dalida.
Scordi il prima di te e vedi le cose e perché altrimenti io scrivi su te chiuso per causa di inventario e poi con i diversi sentimenti che hai nella testa e nel cuore vita nuova in te in te come un bisogno di amore in più un supplemento di emozioni in più nella testa e nel cuore vita nuova in te.
C'est un des derniers enregistrements de Dalida. On trouve cette version italienne de tout doucement dans son album Le visage de l'amour, sorti un an avant sa mort.
Il faut éclaircir que devient la chanteuse Bibi.
Mais écoutez, elle s'est installée dans sa ville natale, à Accra, dans la capitale du Ghana. Elle y a ouvert un centre d'art qui fait à la fois théâtre, café, studio. Et elle y accueille des jeunes qui ont envie de se lancer dans la musique. Et elle y donne des cours de chant, Bibi.
Merci beaucoup Anthony, on se dit à demain et à tout moment en podcast via l'appli RTL. Notre rendez-vous avec les grosses têtes chaque matin, avant de les retrouver bien entendu dès 15h30. Et ce matin, c'est Isabelle Mergault qui a les yeux tournés vers les étoiles et la Station Spatiale Internationale.
Leurs excréments, eh ben, ils les envoient par la...
fenêtre. Ils les envoient de...
Oui, bien sûr, ils ont de la fenêtre.
Ah ouais. Ils les envoient dans l'espace. Mais c'est incroyable quand même de savoir que c'est vrai qu'il faut bien qu'ils s'en débarrassent puisqu'ils n'ont pas de toilettes.
Oui, ils ont des toilettes. Sur ma péniche, j'ai pas de toilettes.
Mais il faut toujours qu'ils ramènent. On parle de l'espace. Comment on en arrive à toi? Je comprends pas. On est sur l'autoroute et il y a la rocade, bravo, là, alors qu'on était sur une belle autoroute.
Oui, mais c'est pour te dire que dans l'espace ou sur l'eau, les excréments vont dans l'espace ou dans l'eau.
Oui, mais c'est quand même, je trouve que ça gâche. Je ne vois plus d'étoiles, je vois de la merde. Oh, une merde volante,
Ah, ils font peur parfois. Alors cet après-midi, vous retrouverez dès 15h30 Isabelle Mergo, Gérard Juliot, Caroline Diamant, Florian Gazan, Jérémy Ferrari et Stevie Boulet. Bonjour cher Louis.
Bonjour Yves.
Si on veut du soleil aujourd'hui, il faut regarder au nord de la Loire. Hein.
Oui, exactement. On a pu voir les étoiles ce matin pour continuer. Oui. Effectivement, c'est bien ces étoiles qu'on voyait sous ce ciel dégagé effectivement dans la moitié nord. C'est comme hier, la limite est à peu près la même entre La Rochelle et Genève ou Besançon. Au nord, ça restera très ensoleillé, même si on a quelques petits nuages qui circulent près des frontières du nord-est, ça va vite disparaître. Et donc tout au long de la journée, dans ces régions du nord, ça sera encore du grand ciel bleu. Pas de risque de précipitation évidemment. Alors qu'au sud de cette même limite, donc à peu près La Rochelle, Besançon ou La Rochelle, Genève, eh bien là, ça restera très nuageux toute la journée, avec encore des averses. Il y en a en ce moment, là, près des Pyrénées, un peu du côté de l'Ardèche. Et cet après-midi, ces averses auront tendance même à reprendre, parfois accompagnées d'orages entre les Alpes et la Corse. Alors, il y aura un petit peu moins de vent, que ce soit près de la Méditerranée ou encore dans la moitié nord, et ça fera la différence. Oui. Parce qu'hier, avec le petit vent de nord, hein, on l'avait ressenti frais. Oui. Eh bien là, cet après-midi, ça sera plus agréable, parce que les températures sous abri seront comparables à celles d'hier. On sera entre 13 et 17 degrés près de la Manche, 17 à 21 degrés dans les autres régions, mais dans la moitié nord, donc le ressenti sera un peu plus agréable.
Qu'est-ce que c'était que cette énorme lune qu'on avait cette nuit? C'était la pleine lune?
C'était pas encore la pleine lune, mais oui, on s'en rapprochait.
Elle était gigantesque. Elle devient fou ou elle était particulièrement gigantesque?
Non, c'est vrai qu'elle était gigantesque. Puis surtout, on la voyait, c'est-à-dire que bah oui, le ciel était complètement limpide, dégagé. Donc il y avait ce ressenti probablement de ces ondes qui traversent l'atmosphère, qui est beaucoup plus limpide, qui n'est pas humide, et qui donne donc cette impression qu'elle est peut-être plus proche de nous. En tout cas, d'accord, cette impression un peu différente.
Et savez-vous pourquoi, excusez-moi, j'en profite, hein, ma curiosité, savez-vous pourquoi on parle de lune rose alors qu'elle ne l'est absolument pas?
Ah ben non, alors là, c'est uniquement la transformation des rayons quand ça traverse l'atmosphère qui donne cette impression et ces couleurs.
Une éventuelle coloration.
Exactement, avec c'est toujours la même chose, hein, c'est la couche atmosphérique qui est traversée par les rayons, que ce soit le soleil ou la lune, et qui donne ces couleurs qui peuvent varier en fonction de l'humidité et du trajet du rayon.
Il sait tout sur tout.
Non.
Mais si, mais j'insiste, mais si. Louis Baudin. RTL, il est
7h30. RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 27 avril. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et on va d'abord écouter une voix qui n'est plus ce qu'elle était, mais qui n'a rien perdu de sa combativité. Cette voix, c'est celle de Bernard Tapie, invité hier soir sur TF1 pour évoquer le cambriolage dont il a été victime au début du mois, pour évoquer aussi son cancer métastasé qui a touché plusieurs organes, dont les poumons, les reins, maintenant le cerveau. Malgré tout cela, Tapie dit qu'il essaie d'être heureux et de rendre heureux tous les jours.
Il faut que chacun trouve le mobile de son combat. Celui qui est universel, c'est d'arrêter de faire souffrir ceux qui sont autour de nous. Parce qu'eux aussi souffrent, d'autant plus qu'aujourd'hui, la science va à une vitesse incroyable. Donc celui qui aujourd'hui est atteint d'un cancer dit mortel à court terme, c'est pas sûr. Donc il faut se battre.
Il faut se battre, dit Bernard Tapie, c'était hier soir sur TF1.
Le déconfinement, ce sera tout doux. Hein. Emmanuel Macron l'a confirmé hier soir lors d'un déplacement en Seine-et-Marne.
Le chef de l'État maintient son objectif de rouvrir les terrasses à la mi-mai, mais pour les restaurants, il faudra attendre fin mai, début juin, et encore seulement dans les départements où la circulation du virus aura bien baissé. Quant au couvre-feu, le président a évoqué la possibilité de le décaler un peu, car 19h, c'est un peu tôt, dit-il, mais il n'a pas donné de date. Il faut dire que les chiffres incitent à la prudence. Le nombre de malades du Covid en réanimation vient de repasser au-dessus de la barre des 6 000. On est à peu près au même niveau qu'il y a un an. Malgré tout, l'école a repris hier, à distance pour les collégiens et les lycéens, et avec encore quelques bugs. Hugo est en bac pro commerce dans la Meuse, et hier à nouveau, il n'arrivait pas à se connecter.
À partir des 8 heures où je me suis connecté, même à 17h, 20h, même 22h, et ça fonctionnait toujours pas. Je mets une page blanche ou erreur, du coup je relance le PC, vide le cache comme ils disent, mais ça fait rien du tout. On n'a pas accès au site, alors qu'on a bientôt les examens. Puis après, en plus, j'ai pas mal d'handicap en plus, dyscalculie, dysorthographie, j'ai plein de choses. Je suis stressé. C'est un gros coup dur pour le moral.
Hugo avec Mathieu Limangy. Pourtant, le directeur général de l'enseignement scolaire, Édouard Geffray, dresse un bilan plutôt positif de cette rentrée. Il évoque, lui, des problèmes à la marge.
On a eu ici ou là quelques petites difficultés, mais c'est plutôt que certains élèves soit sont allés sur le site cned.fr, qui n'est pas le site Ma classe à la maison, soit alors parce que leur navigateur internet avait conservé ce qu'on appelle des données en cache. Ça avait gardé en fait la trace des venues antérieures et ça les empêchait d'accéder au service actuel. Et donc, on a, pareil, fait des messages pour expliquer ou répondu au téléphone pour ceux qui appelaient. Mais côté CNED, en tout cas, tout a bien marché. On a donc eu un afflux très important, sans souci.
Édouard Geffray avec Juliette G. En ce qui concerne le dépistage, les autotests, ce sera finalement pour tout le monde. La Haute Autorité de Santé a validé hier leur utilisation par les moins de 15 ans. Côté vaccin, l'Union européenne se fâche. Elle porte plainte contre AstraZeneca, accusée de ne pas avoir respecté ses promesses de livraison. Seulement 100 millions de doses livrées sur les 6 premiers mois de l'année sur un contrat de 300 millions de doses. Des vaccins, c'est ce que réclament les pilotes d'avion. Pour l'instant, ils ne font pas partie des métiers prioritaires. Du coup, le SNPL, premier syndicat de pilote chez Air France, appelle ses membres à boycotter les vols vers l'Inde, le Brésil ou l'Afrique du Sud, Arnaud Touche.
Oui, le syndicat appelle les pilotes d'Air France à ne plus accepter de voler vers l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Argentine et le Chili. Cela représente tout de même 27 vols par semaine depuis Paris, dont 7 vols entièrement cargo. Les équipages restent souvent en escale dans ces pays avant de revenir en France. Le syndicat juge inacceptable que les personnels navigants soient ainsi oubliés alors qu'ils s'exposent à des variants dangereux et souhaite que les pilotes, hôtesses et stewards soient vaccinés en priorité, peu importe leur âge. Contacté, la direction d'Air France se dit favorable à ce que les personnels navigants et les personnels en contact avec le public soient prioritaires. Les pilotes vont jusqu'à parler du droit de retrait s'ils ne sont pas entendus par le gouvernement. Au ministère des Transports, on assure que le dialogue avec le SNPL n'est pas rompu et que le ministère de la Santé doit également trancher rapidement cette question du personnel à bord des avions.
Arnaud Touche. Les commerces, eux, devraient rouvrir à partir de la mi-mai avec des jauges variables selon les régions. Mais certains devancent l'appel. C'est le cas des vendeurs de chaussures. Ils veulent être reconnus comme commerce essentiel et pouvoir ouvrir dès le 3 mai, comme Jean-Yves Collin qui vend des chaussures pour enfants à Paris.
D'après ce qu'on nous dit, on n'est pas essentiel. Mais c'est surtout les pieds de nos enfants qui ne sont pas essentiels. C'est indispensable d'être correctement chaussé. Ça ne s'achète pas comme ça, sur un coup de tête ou sur Internet. Ça s'essaye, ça se porte. Ce qu'on demande, ce n'est pas des aides. Laissez-nous travailler. Nos petits commerces, en fait, sont tout à fait adaptés à recevoir du public dans une sécurité la plus totale.
Un propos recueilli par Nerissa Emani. Pour marquer le coup, les chausseurs lancent l'opération « On marche sur la tête ». Plus de 200 commerçants vont envoyer une chaussure usée au gouvernement. Pied gauche pour Jean Castex et pied droit pour Bruno Le Maire.
C'est plutôt drôle. Les vendeurs de muguet, eux, n'auront pas de soucis cette année.
Non, la vente est autorisée partout chez les fleuristes, dans les supermarchés ou à la sauvette. Plus besoin de passer commande comme l'an dernier. Et en plus, les petites clochettes ont été épargnées par le gel. Elles sont splendides, nous dit Eric Arouet. Il est producteur chez Lilival à Saint-Julien de Concelles, près de Nantes.
Il faut laisser suffisamment de clochettes vertes en bout pour qu'ils se tiennent jusqu'au 1er mai. Ensuite, on le prend entre le pouce et l'index et on le tient droit. On a vraiment du très 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 beau muguet cette année. On a un muguet qui est bien ferme. Pourquoi les conditions météo? Et en plus, il est long. Le plus beau, c'est plus de 17 clochettes. À la maison, il faut le mettre dans l'eau. Avec 2-3 petites gouttes de vinaigre de vin, ça va bien le conserver. Et il gardera sa couleur blanche jusqu'au bout.
Le vinaigre de vin pour conserver le muguet, propos recueillis par Nicolas Bobby. Et ce producteur propose, comme l'an passé, d'offrir du muguet aux soignants. Il faut se rendre sur son site unbrindesolidarité.fr.
J'ai remarqué, rien que le mot clochette fait du bien.
Absolument. Rayon Sport, première demi-finale allée de Ligue des Champions ce soir entre le Real Madrid et Chelsea. C'est du foot, bien sûr. En attendant, demain, PSG Manchester City. On se retrouve tout à l'heure.
Oui, à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Et on va parler de violence conjugale ce matin, de féminicide, mais à hauteur d'enfant, par les yeux d'un petit garçon qui a vécu l'insupportable.
Merci beaucoup Isabelle Choquet. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Il est 7h36, les pays européens peaufinent leur plan de relance, François.
Et oui, c'est vendredi que Bruxelles ramasse les copies, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ces 750 milliards d'euros tombés du ciel? Je vous raconte ça tout de suite.
Oui, nous sommes curieux de le savoir, à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, l'Angléco, avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
La France, François, et les autres pays européens précisent cette semaine leur projet de plan de relance.
Oui, le Bruxelles, la Commission européenne ramasse les copies vendredi, même si on sait d'ores et déjà que tout le monde ne sera pas prêt. Copies qui, pour certaines, font 50 000 pages.
Ah oui.
Remplies des projets d'investissement que chaque gouvernement a sélectionnés et qui doivent être approuvés par la Commission. Celle-ci va notamment vérifier que, tenez-vous bien, 37% des projets concernent la transition écologique, 20% la transformation numérique. Bon, c'est très précis. Et dans les dossiers remis, il y aura aussi les réformes que chaque pays s'engage à effectuer en contrepartie de l'argent qui lui sera versé pour relancer son économie. Chaque plan sera ensuite validé par le Conseil des chefs d'État.
Bah, on retrouve bien l'Europe, c'est pas bien simple tout ça, hein ?
Oui, c'est Bruxelles dans toute sa splendeur, dans toute sa tradition.
Alors, combien va-t-il y avoir d'argent versé finalement, François ?
Au total, 750 milliards d'euros venant de Bruxelles pour financer tout ça, répartis entre les pays selon l'état de leur économie. Sur ces 750 milliards, la moitié subvention, la moitié prêt, donc à rembourser. C'est l'Italie qui va toucher le plus avec 191 milliards au total. La France, elle, recevra 40 milliards auxquels elle ajoute 60 milliards d'euros de son propre budget.
Alors en France, qu'est-ce qu'on va faire ?
D'innombrables projets dont une bonne part a déjà été engagée sur fonds nationaux, justement. La prime à l'embauche, la prime à la conversion automobile, des aides à la relocalisation industrielle, un plan de rénovation thermique des bâtiments publics, le financement de MaPrimeRénov qui sert à rénover l'habitation, les aides à la rentrée scolaire, la formation des jeunes, même la baisse des tickets de restaurants universitaires. Des aides à la SNCF pour développer le fret ferroviaire, à la numérisation pour les entreprises, un grand plan pour développer la propulsion à l'hydrogène. Vous voyez, il y a des choux et des carottes, il y a des aides ponctuelles, et puis il y a aussi des programmes industriels de long terme.
Oui.
Côté réforme, en contrepartie, bon, c'est plus nébuleux parce que la refonte du système des retraites n'a pas été faite. Il y a eu au moins la réforme de l'assurance chômage, péniblement accouchée ces dernières semaines. C'est notamment pour Bruxelles, d'ailleurs, que le gouvernement s'y est accroché malgré l'opposition des syndicats.
Et tous les autres pays font pareil ?
Apprenez l'Italie. Hier, le Premier ministre italien Mario Draghi a solennellement présenté son programme au Parlement, 248 milliards au total, pour investir également dans la numérisation et l'environnement, et puis dans les transports, nouvelle ligne à grande vitesse entre Salerne et Reggio Calabria, par exemple, ou entre Milan et Venise. Éducation, formation, santé, ce sont les trois domaines où on va déverser des milliards.
Alors, 750 milliards pour l'Europe, François, est-ce que c'est assez alors que les États-Unis sortent des milliers de milliards ?
C'est vrai qu'on entend beaucoup cette comparaison chez les économistes avec toujours en sous-entendu l'Europe en fait pas assez. Oui. Honnêtement, c'est injuste. Parce que dans les programmes américains, on compte aussi les indemnités chômage, les aides aux ménages qui sont prises en charge chez nous par les budgets nationaux, en France notamment. Au total, si on fait les comptes rapidement, en France, la crise va coûter 420 milliards d'euros sur 3 ans, auxquels on ajoute 100 milliards de relance. Ça fait 520. 520, c'est en gros 20% du PIB français, au bas mot d'ailleurs. Aux États-Unis, si on additionne les plans Trump et les plans Biden, 6 000 milliards de dollars, ça fait 27% du PIB. Vous voyez que c'est un peu plus, mais en fait, ça s'étend sur une période plus longue. Au total, la différence n'est pas si grande.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions et toutes ces informations, François Langlais. On vous retrouve sur RTL.fr et bien entendu demain matin à la même heure sur RTL. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin,
Philippe Devilliers. Nous allons revenir avec lui sur les débats terrorisme, immigration et puis sur son livre aussi, Le jour d'après, ce que je ne savais pas et vous non plus, qu'il vient de publier aux éditions Albin Michel.
A tout de suite avec Philippe Devilliers sur RTL.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout comprendre de l'actualité.
RTL Matin
avec Yves Calvi.
RTL, il est 7h43. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Philippe Devilliers.
Bonjour Philippe Devilliers.
Bonjour.
Nous allons revenir sur le livre que vous publiez, Le jour d'après, ce que je ne savais pas et vous non plus, aux éditions Albin Michel. Mais comme vous exprimez souvent sur l'actualité, permettez-moi de revenir sur l'attaque terroriste de cette fonctionnaire de police au commissariat de Rambouillet par un Tunisien. Depuis cet assassinat, la droite et l'extrême droite accusent Emmanuel Macron de laxisme migratoire. Ce Tunisien qui a été naturalisé en 2019, était entré en France irrégulièrement en 2009, lorsque Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Donc c'est un laxisme qui ne date pas de l'année dernière.
Absolument. Depuis des années et des années,
Des générations politiques ont abandonné les murs porteurs qui s'écroulent, l'autorité, la souveraineté, la sécurité, la liberté. Et ce que je voudrais dire sur ce drame, c'est que c'était un clandestin, Jamel, entré clandestinement, vous venez de le dire, régularisé 10 ans après. Ensuite, inconnu des services de police, ça c'est intéressant parce que ça veut dire, c'est ce que dit Kepel, le djihadisme d'atmosphère, c'est les nouveaux djihadistes. Ils ne répondent plus à des consignes. Il avait dans un sac son tapis de prière et son Coran.
Et donc on ne peut pas les détecter.
Et donc en fait ça doit nous amener à réfléchir à la chose suivante. On ne peut plus dire qu'il n'y a pas de lien entre l'insécurité et l'immigration, entre le terrorisme et l'immigration. Moi je pense que l'immigration, et je le dis depuis longtemps, et je ne suis pas le seul, l'immigration est le terreau de l'islam, qui est le terreau de l'islamisme, qui est le terreau du terrorisme. Ceux qui disent le contraire ne sont pas dans la bonne analyse.
C'est-à-dire vous avez raison et vous avez tort, Monsieur De Villiers.
Pardon ?
Vous avez raison et vous avez tort. Effectivement, les trois derniers attentats ont été perpétrés par des clandestins. Sauf que 4 djihadistes sur 5 qui ont commis des attaques terroristes en France en 2015, depuis 2015, sont français. Donc
Absolument.
Vous avez raison et vous avez tort.
Non, mais,
est-ce qu'il faut rétablir le délit de clandestinité ?
Je vais compléter. Le drame de la France, c'est que vous ne pouvez pas gérer le stock si vous ne gérez pas le flux. Le président de l'Office des migrations, M. Didier Léchy, qui est un homme tout à fait modéré, tout à fait compétent, a donné les chiffres récemment. Ils sont astronomiques. C'est-à-dire qu'il y a eu 175 000 demandeurs d'asile en France en 2019, la dernière année comptabilisée. Et il y a eu 274 000 cartes de séjour. Donc vous ne pouvez pas gérer une masse pareille. Et donc la première chose à faire, c'est d'arrêter les pompes aspirantes, de rétablir les frontières, et ensuite d'installer, de réinstaller la France en France. Et je réponds à la deuxième partie de votre question. C'est-à-dire qu'il faut qu'en France, on dise « on est en France ». On n'est pas ailleurs qu'en France. Et il faut tenir compte du fait que la France se défrancise. Beaucoup de gens disent on a le sentiment d'être étranger chez soi. Ça se voit à l'œil nu, ça se sent partout. Regardez les prénoms, regardez cette dame de Montpellier qui dit au président de la République absolument effaré.
Mais ce sont des Français, compris ceux qui ne s'appellent pas Philippe comme vous.
Non mais la France, c'est une histoire qu'on partage, ou alors on s'en va. Un art de vivre qu'on partage, ou alors on s'en va.
Ça s'appelle l'assimilation, c'est ça ?
Ça s'appelle l'assimilation. C'est dans le code civil. Et le drame de la France, et c'est d'ailleurs le cœur de la discussion que j'ai eue, et de la rupture avec Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, on est en train d'installer en France un damier, un côte-à-côte, qu'avait dénoncé Gérard Collomb avant de partir, l'ancien ministre de l'Intérieur de Macron, un damier, un camailleux. Et ce damier, il produit ce que nous avons sous les yeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon Karaoui, qui a fait un livre récemment de l'Institut Montaigne, il parle de 400 000 personnes, comme le tueur de Rambouillet.
Donc,
c'est-à-dire que ça peut nous arriver à tous, tous les jours.
400 000 personnes.
Et ça s'appelle
Qu'est-ce
quoi
que vous voulez en faire? Parce que plupart sont français, sont françaises.
Très bonne question, je réponds. Il faut dire à toute personne qui est sur le territoire français, ou bien vous acceptez votre mère adoptive, quand ce n'est pas la mère de sang, la mère adoptive, on l'aime, on apprend à l'aimer. Donc vous apprenez à aimer notre histoire, à pratiquer notre art de vivre. Ici, chez nous, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de tenue du 7e siècle, du prophète, etc. Et notre langue, et c'est pour ça que je parle de notre langue, parce qu'elle est aujourd'hui en grand danger avec l'écriture inclusive. Les élites globalisées de notre territoire prononcent des mots qui ne veulent rien dire pour la lame de feu qui avance vers nous. Quand vous êtes croyant, vous avez en vous une lame de feu. C'est pas du tout une critique que je fais. Mais simplement, comment on répond à une lame de feu? Pas avec des codes, pas simplement avec des codes. Les codes sont nécessaires, mais jamais on
Philippe
a vu quelqu'un tomber amoureux d'un code de la route.
C'est pour ça que vous appelez à l'insurrection?
L'insurrection, C'est l'insurrection des consciences. Oui, j'appelle à l'insurrection.
Ça veut dire quoi, l'insurrection des consciences?
Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire l'insurrection de la liberté de vivre, la liberté d'ouvrir, la liberté de créer, la liberté de faire la fête, la liberté de se retrouver, la liberté d'étudier autrement.
Et ça, c'est pas possible aujourd'hui?
La preuve que non, vous voyez bien. Attendez, vous sortez, regardez, tous les magasins sont fermés. Tout à l'heure, j'ai marché avant d'entrer dans le studio. C'est une France lunaire dans laquelle nous sommes.
Ensuite, on est les seuls au monde à vivre comme ça?
J'écoutais ce matin RTL, j'entendais qu'en Italie, la Dolce Vita revient.
Ça commence à rouvrir.
J'étais en Espagne il n'y a pas longtemps, tout rouvre.
Avec beaucoup de limites, alors, vous le savez très bien.
Alors, si vous voulez, c'est simple. Il y a deux sortes de pays, Alba Ventura. Il y a ceux qui ont réussi au début et qui ont raté à la fin. Il y a ceux qui ont raté au début et réussi à la fin, l'Angleterre, l'Allemagne. Et nous, on a raté au début, on a raté à la fin. On a tout raté.
Je voulais revenir sur l'insurrection parce qu'une vingtaine de généraux de l'armée ont publié une tribune dans le magazine Valeurs Actuelles, la même où vous vous êtes exprimé d'ailleurs. Tribune signée par plusieurs centaines d'anciens officiers, sous-officiers, militaires de rang contre le délitement de notre pays. Et donc une semaine plus tôt, c'était vous qui appelez à l'insurrection. Eux, ils appellent au soulèvement contre l'islamisme. Vous avez allumé la mèche.
Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai allumé la mèche.
Mais ils se sont sentis autorisés par l'appel d'un ancien préfet, non ?
Vous ne trouvez pas que la mèche, c'est les gens d'en face qui ont allumé la mèche et qu'il y a des collabos en France qui font la cour d'échelle à ceux qui allument la mèche tous les jours.
Mais vous pensez qu'on va s'en sortir si tout le monde appelle à la guerre civile ?
Attendez. La guerre qui nous est faite, il y a une guérilla. La semaine dernière, il y avait une vingtaine de villes où les policiers ont été pris à partie. C'est même pas médiatisé tellement il y en a. Et on a eu le drame de Rambouillet. Donc, il ne faut pas renverser les choses, Alba Ventura. Il faut bien voir que la guerre civile, ce n'est pas nous.
La tribune, c'était avant.
La guerre civile,
ce n'est
pas nous. Mais je vais aller plus loin, quitte à faire trembler les murs de ce studio. Je pense qu'on est dans un processus de colonisation. Colonisation de peuplement, avec un différentiel démographique qui nous est très défavorable. Colonisation de conquête, avec 200 à 300 territoires qui ne sont plus français.
C'est la théorie du grand remplacement. On la connaît, Philippe de Villiers. Dans un an, l'insurrection, elle a quel visage à la présidentielle ?
La présidentielle, je pense que l'enjeu de la présidentielle, ce sera oui ou non à une politique de civilisation. C'est-à-dire répondre à cette défrancisation galopante en prenant... l'autre chemin, c'est-à-dire le refabriquer des petits Français de désir. C'est ça l'urgence.
Ça veut dire
reparler de la France aux Français.
Ça veut dire que vous ne croyez plus en Emmanuel Macron ?
Non.
Qu'est-ce qui vous a fait, Emmanuel Macron ? On vous a connu comme larron en foire, vous disiez qu'il était votre ami, vous le présentiez comme un jeune prodige. Il a accédé à presque toutes vos demandes pour la réouverture du Puy du Fou. Et maintenant, vous balancez tout dans un livre. Qu'est-ce qui vous a fait ?
Alors, il y a deux choses, il y a l'amitié et il y a la vérité.
Non mais vous n'êtes plus ami.
Et quand la vérité est trop cruelle, l'amitié ne compte plus. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas... Là, vous faites comme si on était deux pêcheurs à la ligne au bord de la berge, devant des carpes sauteuses, et qui échangent leurs secrets sur la longueur de leur gaule. Voilà, ben non, c'est pas ça.
Hein.
Quand on se voit, Emmanuel Macron et moi, on parle de quoi ? On parle de la France.
Mais il ne vous a jamais rien caché. Vous connaissiez son européisme, son universalisme, son multiculturalisme. Vous le saviez tout ça ?
Je le savais, mais j'espérais. Pourquoi ? Parce que quand on n'est plus dans la vie politique, qu'il y a un nouveau président qui vient vers vous pour vous demander des conseils, on espère. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était foutu. Qu'en fait, il allait autre part. Sur la question de l'assimilation, il m'a dit, c'est non. Sur la question du défi migratoire, il m'a dit, c'est non. Sur la question du mouvement décolonial, il n'a pas vu arriver chez nous, Alba Ventura. Ce qui va bientôt arriver dans le studio, c'est la lutte des races, partout. C'est-à-dire, en fait, des gens qui veulent détruire la France, qui veulent nous décoloniser pour nous recoloniser.
Dans votre livre, Philippe de Villiers, que vous venez de publier aux éditions Albin Michel, Le jour d'après, ce que je ne savais pas et vous non plus, en gros, vous dites qu'à la faveur du coronavirus, les géants du numérique se sont alliés aux dirigeants politiques pour réinitialiser le monde. Donc vous en voulez à Big Pharma, Big Data, Big Finance, Bill Gates, le fondateur du Forum économique de Davos. Il y aurait eu un complot.
J'ai pas dit un complot, non, justement.
Non, mais vous tournez autour, enfin. En tout cas, vous reprenez une théorie complotiste.
Non, c'est une faute, c'est une feuille de route qui prépare le monde d'après que je ne veux pas. Et ce monde d'après, je vais vous le décrire, je le décris dans mon livre, c'est un monde qu'on peut qualifier trois fois. C'est un monde dans lequel, au nom du tout sanitaire, on sacrifie la transmission, la jeunesse et l'avenir. Un monde dans lequel, au nom du tout numérique, on sacrifie la société de voisinage, les métiers de
mais
la main et du cœur.
Et enfin,
je termine, un monde dans lequel, au nom du transhumanisme, on dénature l'espèce humaine. Et moi, je ne veux pas de ce monde-là, c'est-à-dire d'une société
à jamais distanciée. Ce que vous décrivez, c'est la mondialisation. Elle ne plaît pas à tout le monde et on comprend qu'elle ne vous plaise pas.
Mais il ne vous a pas échappé, je pense que tous les Français qui nous écoutent le comprennent, que les géants du numérique, la big tech, comme on dit, ont profiter de la crise sanitaire pour avancer leur pion. Ce sont des profiteurs d'épidémie comme il y a des profiteurs de guerre.
Une dernière question. Vous espérez que le Puy du Fou rouvre à la mi-mai ?
Ben, on ne sait pas. Voilà.
Vous attendez ?
On
gentiment.
Sait pas. Ils ne savent rien. Enfin,
pas vraiment gentiment.
Attendez, vous savez, Macron disait, un jour à la Maison de la Chimie, il a dit à ses députés, aux membres du gouvernement, on dit que nous sommes des amateurs, restez-le. C'est la seule promesse qui aura été tenue.
Merci Philippe de Villiers.
Philippe de Villiers qui parle de défrancisation au micro d'RTL. Il faut restaurer la France en France et j'en appelle à l'insurrection de conscience. Le jour d'après est publié aux éditions Albin Michel. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.fr et Cyprien Sini surfe en balade avec Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer dans un tout petit instant. Restez avec nous. Bonne journée à tous.
RTL Matin, Yves Calvi. RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
7h58, bonjour Cyprien, vous surfez en balade avec Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer.
Duo de choc Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer à eux deux, hier c'était un peu...
L'amour du risque,
Jean-Michel et Emmanuel, les rois de la prédiction, faut dire que... Pour les cours à la maison, Jean-Michel Blanquer l'avait annoncé, terminé les problèmes de connexion.
Ces problèmes ont été vus de façon à ce que ce qu'on appelle les environnements numériques de travail soient pleinement opérationnels avec leur capacité qui a été augmentée.
Bon, on t'a boosté les serveurs, un truc de dingue, et donc hier...
Du côté des cours à distance, quelques difficultés avec les plateformes ENT en Normandie et dans le Grand Est notamment.
Oh, c'est pas de bol quand même, enfin... C'était déjà mieux que la dernière fois. Et de toute façon, hier matin, le ministre, il était loin de tout ça. Il accompagnait le président dans une école, une vraie, à Melun, avec des élèves et tout. Et là, le président, face aux enfants de CM2, il a eu comme une révélation concernant le couvre-feu.
On va essayer de le décaler, promis. On va voir. On va le décaler un peu. Parce que 19h, c'est tôt, je suis d'accord. 19h, c'est très tôt.
Oui. Après trois mois, il réalise que 19h, c'est tôt, c'est même très tôt, bien vu. Bon, sinon, dans la classe, Jean-Michel Blanquer, toujours aussi à l'aise face aux élèves. Hein. Je vous rappelle qu'ils sont en CM2. Hein. Et là, pour tenter de nouer un dialogue, question.
Et vous connaissez le poids d'un ballon de football ?
Non, mais...
Comment tu veux qu'il le sache ? Même moi, ça fait 40 ans que je joue au foot et j'en sais rien. Mais et là, il se tourne vers le maître et c'est le premier instant pas de bol de la journée.
Aïe, aïe, aïe. Le maître, il sait.
Je crois, le souvenir, c'est dans les 400, 500, 700... Non, entre 400, je ne sais plus. Quand en plus, je suis plus spécialiste basket. Donc...
Ouais, même voilà. Le prof, il n'en sait rien. Il se prend la honte avec l'excuse. Oui, je suis plus spécialiste basket. Non, oui. Mais bon, il enchaîne, Jean-Mi. CM2, hein.
Et le record du 100 mètres, vous le savez, le record du 100 mètres.
Ben non, ils sont en CM2, Jean-Michel, ils ont 9 ans, ils sont pas en sport études
d'athlétisme.
Ben oui, bref, derrière, bain de foule. Et c'est un mélange, Emmanuel Macron, c'est un peu Justin Bieber, hein, foule en délire. Et là, une dame l'interpelle.
Bonjour, c'est mes élèves.
Vous allez bien ?
Vous pouvez nous aider parce que nous, on souffre avec la drogue et tout.
Il y a des points de stup, là ?
Ah oui ! Ouais, beaucoup, ouais, beaucoup.
Et là, il lui explique qu'il y a plein de points de stup autour de l'école. Et juste à côté du président, deuxième instant pas de bol, bah, il y a le maire de Melun. Psst, viens là, par là, toi.
Madame, elle parle d'un point de vente stup.
Ah oui, oui. Et en permanence, on a multiplié la police par deux.
te casse pas, c'est trop tard. Toi aussi, t'es mal barré. Une autre personne a une question plus précise sur les examens de fin d'année.
Alors non, le bac général, il est en... il y a l'examen.
Qui l'écrit, il n'y est pas.
Monsieur le ministre.
Venez, monsieur Blanquer.
Jean-Michel.
Allez, Jean-Michel, ramène-toi, elle est pour toi, celle-là. Un bien bel épisode de... En attendant la suite du feuilleton avec la rentrée des collégiens la semaine prochaine, on va se régaler.
On vous retrouve ce soir, Cyprien, côté de Thomas Soto, dans RTL Soir, dès 18h.
Ce soir.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, François Pinault au chevet des Girondins de Bordeaux.
Le milliardaire appelle les producteurs de grands crus bordelais à se cotiser pour sauver le club menacé de disparition. Les commerçants face au mur de la faillite, l'optimisme du patron du MEDEF hier sur RTL, balayé par les professionnels, vous l'entendrez. Ce qui n'empêche pas la joie des Américains, bientôt autorisés à revenir en Europe.
Extremely excited to wake up in the morning and go to a French cafe and sit on the sidewalk.
New-Yorkaise rêve de retrouver la vie parisienne.
Alors, quel temps aujourd'hui au-dessus du French Café ?
Ah bah justement, à Paris, il fera beau encore aujourd'hui, comme dans toute la moitié nord. Hein, c'est la même chose qu'hier. Grand ciel bleu dans cette moitié nord, alors que dans le sud, ce sera totalement l'inverse. Hein, sud d'une ligne de La Rochelle-Genève. Ça restera très nuageux avec quelques averses, voire des orages cet après-midi. Puis côté température, c'est frais pour ne pas dire froid ce matin dans la moitié nord sous le ciel dégagé. Quelques gelées encore dans le nord-est, alors que c'est déjà plus doux dans le sud. Et cet après-midi, 13 à 17 degrés près de la Manche, mais 17 à 21 degrés dans toutes les autres régions.
Louis Baudin.
RTL Matin.
Le salut des Girondins de Bordeaux viendra-t-il de François Pinault ? À la surprise générale, le milliardaire, troisième fortune de France, appelle dans une lettre ouverte les propriétaires de grands crus bordelais à se mobiliser pour sauver le club récemment lâché par son actionnaire et tout près du dépôt de bilan. François Pinault, lui-même propriétaire du club de Rennes, ne peut pas racheter directement les Girondins, mais il se dit ému à l'idée de les voir en risque de disparaître. Mais le moins que l'on puisse dire, Philippe de Maria, c'est qu'il va devoir encore convaincre.
Oui, le milieu très feutré des grands châteaux bordelais est en ébullition. L'initiative de François Pinault fait d'abord réagir ses amis, comme Bernard Magrez, château Pape Clément, entre autres. Il est pour l'initiative du milliardaire en faveur des Girondins, mais seulement pour donner un coup de main.
Je ne pense pas que François Pinault ait la prétention d'aller trouver suffisamment d'argent auprès des propriétaires de vignobles de Bordeaux pour acheter le club. C'est une participation pour aider un tiers ou des tiers à acheter le club.
Et puis il y a ceux que cette lettre fait littéralement bondir. Hubert de Boire-Château, Angélus et très remonté.
Sur les grands sujets qui sont les sujets de la viticulture, notamment bordelaise, on l'a pas beaucoup vu. Hein. C'est aujourd'hui un peu déplacé. Je veux dire, la cause est noble, extrêmement noble, parce que les Girondins, c'est formidable pour Bordeaux. Mais la cause est un peu déplacée. Ou alors s'il le fait, très bien, mais qu'il le fasse avec ses deniers.
Et hasard du calendrier, le Stade Rennais du milliardaire François Pinault se déplace dimanche prochain à Bordeaux pour affronter les Girondins.
Philippe de Maria.
À moins d'une semaine du procès de Nordal Lelandais, l'appel déchirant sur RTL des parents d'Arthur Noyer.
Leur vie a basculé en avril 2017 lorsque leur fils a disparu à Chambéry après avoir croisé la route de l'assassin présumé de la petite Maëlys. Le caporal Noyer avait 23 ans. Ses restes ont été retrouvés quelques mois plus tard. Lundi prochain, Lelandais comparaîtra pour meurtre et non pour assassinat. Il a reconnu un simple accident. Pour RTL, Serge Puyot a rencontré les parents de la victime.
Comme dirait Cécile, nous on a pris perpétuité quoi. Et bien, si l'autre pouvait prendre au minimum perpétuité, quoi, et bien, ce serait peut-être pas mal, quoi.
Arthur manque. Voilà, enfin, Arthur, on le reverra plus. Je vais pas le voir vieillir. C'est moi qui l'ai enterré. Enfin, c'est terrible, ça, je veux dire, d'enterrer ses enfants. Et le seul responsable, c'est l'autre.
L'autre, Nordal Lelandais, Cécile et Didier Noyer, évitent de prononcer son nom.
Leur témoignage exclusif au micro de Serge Puyot est à retrouver en intégralité à 8h20 sur RTL.
Après l'émotion à Rambouillet, place à la politique, Emmanuel Macron réunit dans une heure un conseil de défense et de sécurité nationale, 4 jours après l'attentat au couteau qui a coûté la vie à Stéphanie Monfermé. Un conseil de défense à la veille de la présentation d'une nouvelle loi contre le terrorisme qui viendra s'ajouter à la vingtaine de textes en la matière créés depuis 30 ans, Alice Moreno.
Oui, le texte prévoit des ajustements. Une source au ministère de l'Intérieur préfère parler de perfectionnement. Par exemple, les individus condamnés pour terrorisme sont aujourd'hui suivis pendant un an après leur sortie de prison. Des restrictions de liberté peuvent être décidées sur cette période. Eh bien, ce délai de surveillance renforcée s'allongera à 2 ans. L'accès des services de renseignement aux algorithmes sera aussi pérennisé. Ils pourront détecter les connexions à des sites sensibles, remonter jusqu'à l'internaute qui s'est connecté. Une technique qui existait à titre expérimental depuis 4 ans et devrait donc être définitivement installé. Enfin, les préfets en charge du suivi des personnes radicalisées sur leur territoire recevront des informations relatives à leur prise en charge psychiatrique. Là encore, c'est quelque chose qui existe déjà. La nouveauté, c'est l'échange d'informations entre préfets des différentes régions. Si un homme radicalisé suivi par le préfet du Nord, par exemple, est hospitalisé à l'autre bout de la France, eh bien l'information circulera entre les deux territoires.
Alice Moreno.
8h05, alors que l'activité reprend progressivement chez nos voisins anglais et italiens, notamment les professionnels, les professionnels français attendent le mois de mai avec impatience.
Même si les chiffres de l'épidémie ne sont pas bons, mais Emmanuel Macron maintient l'objectif de réouverture par étapes jusqu'à la fin juin des commerces, des bars, des restaurants. Dans quel état seront-ils ? On réécoute la petite phrase du patron du MEDEF hier matin sur RTL, Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Est-ce qu'il y aura un mur de faillite ? Je crois pas. Il y aura bien sûr une augmentation des faillites puisqu'il y a eu ce retard. Mais moi, je vois la situation financière des entreprises. En cash, elle est plutôt bonne à cause du PGE, le prêt garanti par l'État. Par contre, il y aura quelques cas, notamment restauration. Qui a beaucoup souffert.
Pas ou peu de faillites en vue, donc pour Geoffroy Roux-de-Bézieux, ce n'est pas du tout l'avis du président des chambres de commerce et d'industrie, Pierre Goguet.
Quasiment tous les appels que l'on a, c'est de l'accompagnement personnalisé qu'on nous demande. Hein. C'est plus la question lambda sur comment on fait pour avoir telle aide. Ça, ils savent maintenant. Maintenant, c'est comment vous pouvez m'accompagner concrètement pour relancer mon activité. Et sur le plan psychologique, on a des chefs d'entreprise qui ont, pour certains d'entre eux, tendance à baisser les bras. Je pense évidemment au secteur de l'habillement, de la chaussure. Mais pas seulement, je pense aux jouets, aux bijoux, avec des difficultés d'écoulement des stocks. Ils viennent de rentrer les stocks pour l'été, là. Et ils n'ont pas encore écoulé ceux de l'hiver. Que certains baissent les bras parce que détresse psychologique, absence de visibilité, je crains effectivement une remontée, hein, des défaillances, donc des risques effectivement de demande de liquidation directe.
Le pessimisme du président des chambres de commerce et d'industrie avec Armel Lévy.
Je ne vais pas vous proposer de danser avec moi, mais en tout cas, c'est un Américain à Paris. Vous avez sans doute reconnu, vous qui nous écoutez, la musique de Gershwin. Eh bien, les Américains vont pouvoir revenir chez nous cet été à condition d'être vaccinés. On va vous expliquer tout cela, vous le savez, dans un instant avec Jérôme Florin.
RTL Matin.
RTL 8h10, la suite du journal de Jérôme Florin. Yes, you can. Les touristes américains vont pouvoir revenir en Europe.
Bruxelles a donné son feu vert à condition évidemment que ces touristes soient vaccinés. Et c'est wonderful hein, pour ces Américains croisés à New York par notre correspondante Karine Otten.
La New-Yorkaise Sarah Mosto est tellement amoureuse de Paris qu'elle y a acheté un appartement il y a 4 ans. Alors forcément, l'annonce européenne de rouvrir les frontières aux touristes américains vaccinés l'a soulagée.
J'espère que le moment où nous partirons cet été, la situation s'améliorera pour les gens qui habitent là-bas. Ceci dit, je trouve que c'est super. Je suis impatiente de pouvoir dépenser de l'argent, d'aller au restaurant ou d'aller au musée. Je suis vraiment excitée d'avance de me réveiller le matin, d'aller dans un café français, de m'asseoir en terrasse et d'avoir un croissant et un café.
24 heures après l'annonce, pourtant, les touristes ne se sont pas encore rués sur les réservations. Pour Lorne, vendeur à l'agence spécialisée dans les voyages européens Kensington Tours, c'est tout à fait normal.
L'Islande est la destination la plus demandée pour l'instant car elle a annoncé il y a déjà 3 semaines qu'elle accueillerait les touristes vaccinés. Donc l'idée a eu le temps de faire son chemin. Pour les autres destinations, il va falloir au moins une semaine pour que les touristes prennent en compte les plans annoncés ce week-end des phases de réservation.
Si l'UE rouvre ses frontières à ses touristes, les pays membres seront toujours libres de refuser d'accueillir les Américains, même vaccinés, ou ils pourront leur imposer des mesures de précaution.
Karine Otten à New York pour RTL. Aux États-Unis, toujours le flop des Oscars à la télévision. La cérémonie a attiré hier moins de 10 millions de téléspectateurs américains. C'est du jamais vu. C'est 58% de moins que l'an dernier. En Espagne, une campagne des régionales à couteau tiré, c'est le cas de le dire. Plusieurs ministres ont reçu des menaces de mort avec pour l'une un couteau ensanglanté dans une enveloppe. Pour les autres, des balles de fusil d'assaut. Assez, s'est exclamé hier sur son compte Twitter le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez qui appelle à faire respecter la voix de la démocratie.
8h12, draguer et trouver du boulot, c'est possible.
D'abord, on ne le dira jamais assez, il y a toujours des secteurs qui recrutent malgré la crise, comme celui de la logistique. Et l'un des leaders français de l'intérim a décidé d'attirer le chaland sur Tinder, la fameuse plateforme de rencontres coquines. Sur un malentendu, comme on dit, ça peut marcher. Alexandre de Saint-Aignan.
Soyons honnêtes, ce n'est
n'est pas vraiment ce que les utilisateurs viennent chercher à la base sur cette application de rencontre.
Ah ben non, mais c'est ça qui est drôle. Ils viennent pour chercher quoi, Alexandre? Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, pour moi, ils viennent chercher de l'amour, de l'amitié, des rencontres.
Roland Gomez est le PDG de cette société d'intérim.
Eh bien maintenant, nous, Promène, on leur propose de trouver, en plus de tout ça, un job.
Alors que vous êtes tranquillement en train de tapoter votre écran à la recherche de la perle rare ou de l'amour d'un soir, vous pouvez désormais matcher avec un chariot élévateur, un transpalette ou encore un colis qui vous promet une relation qui cartonne.
Au-delà de faire sourire, ça va également permettre à certains de trouver un emploi ou de revenir vers l'emploi. Les métiers de la logistique, ce sont des caristes, des préparateurs de commandes, des logisticiens. Il n'y a pas besoin d'avoir une qualification très très pointue. Et puis, si on ne l'a pas, Promène se charge de vous la faire acquérir via des formations afin de pouvoir exercer cet emploi.
La logistique, un secteur qui ne connaît pas la crise, notamment grâce au e-commerce. Avec le confinement, les ventes de produits sur Internet ont explosé plus 32% l'an dernier.
Ah, matcher avec un chariot élévateur.
Oui, c'est hot. Hein, un bon transpalette et oui.
Et voilà. Les gens, vous avez tous été très attentifs au studio à ce sujet.
C'était le journal. Voilà, c'est normal. C'était le journal de Jérôme Florent.
RTL Matin avec Yves Calvi.
13, l'heure de retrouver notre brigade de l'actualité pour nous intéresser à notre vie quotidienne et particulièrement notre alimentation. Le bio est-il en train de s'essouffler en France? La crise du Covid a changé notre façon de consommer. Et pour la première fois, depuis plus de 20 ans, les ventes de produits bio ralentissent alors que chaque année, la croissance du secteur était jusqu'ici à deux chiffres. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour à tous.
Essayons de comprendre ce ralentissement avec vous. Vous dites que les consommateurs se sont davantage rués vers le local. Ce qui est proche rassure plus que ce qui est bio. C'est
oui,
bien
c'est...
ça?
C'est très marquant. Depuis le premier confinement, il y a eu un engouement pour les circuits courts, donc des achats faits directement auprès des producteurs. Les citadins sont allés se confiner à la campagne, ils sont allés faire leurs courses chez les agriculteurs. Et une étude publiée par la filière bio, l'agence bio, montre que les volumes des ventes dans la consommation quotidienne ont un peu baissé. Le nombre de personnes qui mangent tous les jours au moins 3/4 de produits bio est passé de 19 à 16%.
Quelles sont les raisons données par la filière?
Alors, d'abord conjoncturelles, il y a pu y avoir à cause de la crise des problèmes d'approvisionnement, plus une baisse du pouvoir d'achat chez certains consommateurs. Le premier frein qui fait hésiter les gens à acheter bio, c'est toujours le prix. Et puis donc cet appétit pour ce qui vient de près de chez nous, avec beaucoup de petits commerces de produits régionaux qui se sont ouverts. Et aussi, c'est un phénomène qui s'est amplifié avec la crise. On voit de plus en plus de grands magasins spécialisés de produits frais ou régionaux qui concurrencent les grandes surfaces.
C'est un petit peu comme si le bio avait atteint une forme de plafond.
Non, aujourd'hui, c'est près de 6% des ventes des produits alimentaires. Il va continuer à progresser, le bio, mais bon, quand un secteur connaît une croissance si forte, à un moment, il marque le pas. Il va devoir peut-être évoluer un peu, car il y a bio et bio, Yves. Les ventes dans les magasins spécialisés bio marchent toujours très bien depuis la crise Covid. De nouveaux consommateurs sont même arrivés, des jeunes et des ouvriers. Là où les ventes ralentissent, c'est plutôt dans la grande distribution.
Où le bio n'est pas toujours très cohérent. En grande surface, on trouve parfois du bio importé de l'autre bout du monde et vendu sous de nombreux emballages plastiques.
Oui, entre des poires qui ont été récoltées à 30 km de chez vous, avec peut-être un peu de pesticides, et d'autres bio, mais importés de très loin et vendus sous plastique, vous réfléchissez.
Bien sûr.
Eh bien, la filière aussi réfléchit. Elle constate que le bio français d'abord marche mieux. Et puis quant aux fruits sous plastique, officiellement, vous savez, c'est pour protéger les fruits. En fait, c'est aussi pour les distinguer des autres moins chers et qu'on ne soit pas tenté de les mélanger quand on passe à la caisse. Eh bien, bonne nouvelle, la filière est en train de tester une sorte de tatouage des fruits à chaud qui va permettre d'identifier les produits bio sans les enfermer dans du plastique. Donc le secteur a assurément un bel avenir à condition de régler ses contradictions.
Merci beaucoup Virginie Garin de notre brigade RTL, brigade que l'on retrouve dès demain, 4h30 dans RTL Petit Matin avec Julien Cellier et Marina Giraudot. Vous le savez, dans un instant, notre bureau de vérification de l'information en la personne de Jean-Mathieu Pernin avec une fausse étude sur le port du masque. Et puis ensuite, nous aurons rendez-vous avec Michel Simès qui sera bien entendu très intéressé par tout cela. A tout de suite Jean-Mathieu.
Laissez-vous tenter sur RTL.
Bonjour, c'est Bernard Lehu. En deux livres, Valérie Perrin a conquis le cœur des lecteurs en France et dans le monde. Changer l'eau des fleurs, incroyable phénomène d'édition, près d'un million d'exemplaires chez nous, a été le livre, par exemple, le plus vendu en Italie l'an dernier. Son nouveau roman, 3, est déjà l'un des succès du printemps, une poignante histoire d'amitié à l'épreuve du temps et des aléas de la vie. Valérie Perrin, invitée en direct de Laissez-vous tenter, c'est à 9h.
Laissez-vous tenter. Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Traquer l'info.
enfin la fausse information avec vous, Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, l'université de Stanford aux États-Unis a-t-elle démontré, attention, l'inutilité des masques contre le Covid ?
Alors, c'est vrai que Stanford, c'est une université prestigieuse. Ah, hein, oui. Elle est située au sud de San Francisco, en Californie, réputée pour son sérieux, son prestige. Alors, si elle se met à l'intox, on ne va pas s'en sortir.
Ah, bah non. Ah, non,
c'est vrai. Alors, c'est une publication assez classique, vous allez voir, partagée des milliers de fois, notamment sur Facebook, dans lequel on retrouve bien toutes les critiques importées contre les masques depuis un an. Étouffement, problèmes physiologiques et psychologiques si on porte le masque sur le long terme et même décès prématuré. L'université de Stanford dresserait un sévère constat. Alors l'AFP factuel qui a débusqué ce message renvoie aux études conséquentes prouvant l'efficacité du masque dans la diminution de la transmission du virus. Ouais. Une étude britannique de la Royal Society, une étude du journal scientifique The Lancet et une troisième de l'Académie des sciences américaines. Toutes vont dans le même sens. Le masque est utile et efficace. Alors l'auteur de ce message s'étonne pourtant qu'aucun grand média n'ait parlé de cette étude. Alors on a peut-être une solution pour lui. C'est tout simplement parce que tout est faux en fait, et surtout parce que cette étude, eh bien, ne vient pas de Stanford. Et non, l'université dément et se plaint d'une appropriation d'identité encore ratée.
Alors évidemment, cette fausse étude apparaît au moment où l'on s'interroge de nouveau sur les masques.
Et oui, le contexte est fertile pour ce genre d'intox. En effet, certains pays comme Israël, ayant connu un vrai succès de leur campagne vaccinale, n'obligent plus au port du masque dans la rue depuis le 18 avril dernier. C'est le cas également en Australie. En France, on s'interroge sur son maintien concernant les personnes totalement vaccinées. Ainsi, dans un avis publié hier, le Haut Conseil de la Santé publique recommande un assouplissement du port du masque dans, je cite, le cadre privé familial ou amical en milieu fermé. Hein, à condition, bien sûr, de bien respecter les gestes barrières. Faut-il ou non assouplir les mesures pour ceux qui sont protégés ? C'est le prochain grand débat à venir.
Alors, c'est pas la première fois que l'université de Stanford est au cœur d'une intox.
Et ben non, comme c'est, on l'a dit, une université prestigieuse, bien donc sûr. Ciblée comme toutes les institutions depuis le début de la crise du Covid. Un exemple typique, en fait, de la fabrique de la fausse information. Vous établissez votre théorie, vous rajoutez l'expression « selon une étude de l'université de Stanford » et ça attire l'œil, ça donne un verdict de crédibilité et c'est souvent faux. On retrouve le procédé donc pour les masques, le confinement ou une liste de conseils contre les mesures sanitaires très partagées. Restez prudents donc et concernant le masque, gardons en tête le slogan d'une autre pandémie, sortez couverts.
Alors vous et moi, vous savez ce qu'on va faire, on va fonder une fausse université, l'université de Chazilly dans la Côte d'Or, et puis on lancera comme ça des rumeurs.
Et surtout que la Côte d'Or existe, il faut le dire.
Oui, la Côte d'Or existe, elle, et elle est bien belle.
Bien sûr.
Merci Jean-Mathieu, à demain matin. 8h21, les parents du Cap.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous évoquez l'un des effets secondaires des traitements contre le cancer et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est assez déroutant.
Oui, les témoignages ne manquent pas qui soulignent les effets secondaires dont les patients se passeraient volonté. Ça va de la chute de cheveux aux nausées en passant par une intense fatigue. Et même si d'énormes progrès ont été faits quand même dans la tolérance de ces traitements qui peuvent être très agressifs pour l'organisme, notamment grâce aux traitements ciblés qui évitent d'attaquer les cellules saines. Mais il est un cas où le traitement débouche sur un effet secondaire inattendu et qui concerne la vision du patient. Il voit dans le noir. Enfin, quand je dis qu'il voit dans le noir, je me comprends, il serait plus juste de dire que sa vision nocturne s'améliore. Il ne voit pas aussi bien qu'un chat, sa vision n'est pas nette, mais disons que le patient s'aperçoit qu'il peut distinguer des formes et des silhouettes là où tout un chacun serait perdu.
Mais attends, je ne comprends pas. On constate ça chez tous les patients traités pour un cancer ?
Non, ça concerne que les patients traités par la photothérapie dynamique.
De quoi s'agit-il ?
Eh bien, la photothérapie dynamique, c'est un traitement qui associe la lumière et un médicament photosensible. En pratique, on cible certaines tumeurs avec un faisceau laser. On utilise cette technique sur certains cancers ORL ou de la peau, comme les carcinomes.
Les chercheurs parviennent-ils à expliquer cette soudaine amélioration de la vision nocturne des patients soumis à ce type de traitement ?
Ah, vous pensez bien qu'ils se sont penchés sur le phénomène. Oui. Je vais essayer de vous expliquer leur démarche. D'abord, il faut savoir que les médicaments utilisés contiennent une molécule photosensible, la chlorine E6. Et la première chose que les chercheurs ont constaté, c'est que cette molécule interagit avec une protéine présente dans nos yeux, de telle manière que l'œil en arrive à absorber les lumières infrarouges, d'où sa capacité à y voir plus clair dans le noir.
On imagine que les patients atteints d'un cancer ont d'autres préoccupations que d'espérer une amélioration de leur vision nocturne. Dès lors, que peut-on faire d'une telle découverte ?
D'abord, on peut s'employer à corriger cet effet secondaire qui, vous avez raison, n'a pas grand intérêt quand on se bat contre une maladie comme le cancer, mais on peut aussi inverser le raisonnement. rapidement et se dire qu'il y a là, peut-être, une base qui peut servir la recherche, par exemple dans le cas de la cécité.
Merci Michel, à demain.
À demain.
8h23, merci à vous tous qui écoutez RTL. Les parents du caporal Arthur Noyer prennent la parole ce matin sur notre radio, et ce, à une semaine du procès de Nordal Lelandais, accusé du meurtre de leur fils. Un témoignage exclusif et extrêmement digne, vous allez l'entendre. Il est réalisé par notre correspondant à Grenoble, Serge Payot. Ce sera dans un instant.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Yves Calvi.
Document RTL.
C'est justement un document exceptionnel que nous vous proposons ce matin. Alors que va s'ouvrir lundi prochain devant la cour d'assises de Chambéry le procès de Nordal Lelandais, accusé du meurtre du caporal Arthur Noyer, c'était en avril 2017. Les parents d'Arthur ont accepté de recevoir notre correspondant Serge Puyot pour un entretien exclusif chez eux, à Bourges, où leur fils a grandi. Cécile et Didier nous ont ouvert leurs portes, mais aussi leur cœur, pour évoquer ce procès qu'ils attendent depuis 4 ans. Dire leur détermination à voir éclater la vérité et évoquer également avec émotion la personnalité et la mémoire de leur fils Arthur. Je vous propose donc d'entendre tout de suite cette interview avec Serge Puyot.
Monsieur et Madame Noyer, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Comment abordez-vous ce procès qui va s'ouvrir à Chambéry, le procès du meurtrier présumé de votre fils ?
On est prêts. Pour reprendre l'expression de ma femme, nous sommes sur un mode guerrier.
C'est ça. Mode guerrier. On va au tribunal pour que justice soit rendue sur les faits commis. C'est une étape qui est importante. Ça fait 4 ans qu'Arthur est mort. Il faut qu'à un moment, on croise son assassin, que son assassin soit mis face à ses contradictions, et puis qu'il soit jugé.
On vit vraiment comme une injustice que notre fils ait été assassiné, et on espère une justice à la hauteur. Et on va faire face à l'assassin, on va faire face. Et avec notre conviction, notre force, la force d'Arthur, qui est évidemment toujours omniprésente en nous, on est sûr qu'il va nous guider.
Oui, Arthur, il est, même s'il n'est plus là physiquement, il est toujours dans nos cœurs et ça nous aide.
C'est la première fois que vous allez voir Nordal Lelandais dans le box des accusés. Vous appréhendez ce moment ?
Non, je l'appréhende pas. Alors après, c'est vrai que je ne l'ai jamais vu physiquement. À part des photos dans les journaux ou à la télé, je ne le connais pas.
Nous n'avons jamais été face à l'autre. Nous allons être face à l'autre et nous ferons face à l'autre.
Nordal Lelandais, vous ne voulez pas dire son nom, là, vous l'appelez l'autre.
Oui, je l'appelle l'autre et je continuerai à l'appeler l'autre jusqu'à temps qu'éventuellement il soit touché par une espèce de grâce où il admette qu'il est réellement l'assassin de notre fils, auquel cas je pense qu'il pourra peut-être prendre une dimension un peu plus humaine, mais autrement ça reste l'autre, oui, effectivement.
Vous dites l'assassin de votre fils alors qu'il est jugé simplement pour meurtre, c'est-à-dire que la préméditation n'a pas été retenue pour l'instant par la justice.
J'ai la conviction que c'est un assassin. Nous avons l'intime conviction qu'à un moment donné, il y a préméditation dans une forme ou dans une autre. Nous nous en remettrons au jugement populaire. Nous sommes légalistes.
Vous voulez que la vérité apparaisse durant ce procès ?
Oui, mais est-ce qu'on l'aura, cette vérité ? Pour l'instant, on a la vérité de l'autre, ce qu'il veut bien dire. Celui qui connaît la vérité, c'est Arthur, et il n'est plus là. Alors après, la vérité, peut-être. Mais j'attends rien, le Landais, j'attends rien. Je suis pas sûr qu'il ait évolué dans ce qu'il est. De lui, j'attends rien. Il a nié pendant des mois, et après, c'est... je l'ai pris en stop, mais je l'ai déposé, il était vivant. Et puis 3 mois après, je l'ai tué, mais c'est un accident. Donc voilà.
Justement, il y a des choses qui vous révulsent. Quand Lelandais dit que c'est Arthur qui, le premier, l'a frappé, vous n'arrivez pas à y croire.
Et il a qu'à porter plainte aussi. Qui porte plainte ? Après, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, ça paraît tellement énorme. Ça paraît tellement énorme. Sauf qu'il y en a un qui est mort et pas l'autre. C'est tout. Et c'est à 100 lieues de la personnalité de notre fils, d'Arthur. Mais tous ceux que vous pouvez croiser à Bourges, mais aussi à Chambé, à l'armée, ils le disent, c'est pas lui, c'est pas possible. Et il n'y a pas le moindre doute.
Pour vous, ce soir-là, Nordal Lelandais avait une attitude de chasseur.
Nous avons l'intime conviction qu'à un moment donné, il y a préméditation dans une forme ou dans une autre.
Vous voulez que ce procès se déroule dignement, dans la dignité ?
Nous avons essayé d'être dignes et respectueux pendant toutes ces années. C'est pas toujours facile. Nous souhaitons que tous ceux qui viendront pour Arthur, pour nous, pour la justice, soient digne et respecte les autorités. On ne se laisse pas envahir par la haine, parce que la haine, ça rongerait nous. Alors qu'on a déjà pris perpète, on ne va pas quand même se faire en plus se faire ronger. Puis on a besoin de tout le monde.
Vous pouvez nous parler de votre fils, Arthur ?
Bien, Arthur, c'était un garçon charmant, plein de joie de vivre, aimant avec sa famille, ses amis. Un jeune de 23 ans qui commençait sa vie d'adulte, qui travaillait, qui aimait faire la fête quand il fallait faire la fête, mais qui le matin était au boulot.
Arthur, c'était la notion de partage, c'était la notion d'être ensemble. Quand on discutait avec ses copains, Arthur, c'était une boussole, c'était un aimant. Il fédérait un tas de gens autour de lui, avec simplicité, avec joie et bonne humeur, avec côté rock'n'roll, quoi.
Et ce drame a brisé votre vie ?
Oui, je pense que le mot est faible, tant soit peu qu'on puisse en trouver. Il a brisé ma vie, il a brisé la vie de Cécile, il a brisé notre vie, il a brisé la vie de tous les copains d'Arthur. Comme dirait Cécile, nous, on a pris perpétuité, quoi. Et bien, si l'autre pouvait prendre au minimum perpétuité, quoi, et bien, ce serait peut-être pas mal, quoi.
Arthur manque, voilà, enfin, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. On a pris perpétuité, je veux dire, Arthur, on le reverra plus. Je ne vais pas le voir vieillir, il ne va pas me voir vieillir, c'est moi qui l'ai enterré. Enfin, c'est terrible, ça, je veux dire, d'enterrer ses enfants. Et le seul responsable, c'est l'autre. C'est lui qui est le responsable de tout ça.
On essaie de faire passer toute cette dimension d'être humain qui a été massacré, à qui on a arraché la vie, on a arraché son envie de donner, même après la mort, il voulait donner ses organes, il voulait donner tout ça, on lui a même arraché ça. Bah, à nous d'essayer d'être sur son modèle, à nous d'être à la hauteur de lui. On est fiers de lui, on va essayer d'être digne de lui. Tout simplement ça.
Merci beaucoup Serge Payot et merci bien entendu aux parents d'Arthur Noyer d'avoir accepté d'évoquer le procès qui s'ouvre donc lundi prochain. Je vous le rappelle, dans un instant, nous allons retrouver Louis Baudin pour notre météo à 7 jours. Bonne journée à tous.
En un clic, réécoutez vos programmes préférés 24h sur 24.
Rendez-vous sur rtl.fr. RTL Matin.
Il est presque 8h35 et donc il est temps d'évoquer la météo à 7 jours avec vous, Louis Baudin. Je vous laisse...
Qui est un peu bloqué là pour l'instant, mais ça va bouger pour la fin de semaine, hein, avec, on l'a dit, du grand soleil dans la moitié nord, des nuages dans le sud, avec des averses parfois accompagnées d'orages. Donc un changement radical quand on passe la mi-France, si je puis dire, la ligne qui est en gros entre La Rochelle et Genève, tout ça avec des températures de saison. Et puis à partir de demain, eh bien ces nuages vont remonter un petit peu vers le nord, donc dans la moitié nord, on retrouvera également un ciel un peu plus nuageux, mais les averses resteront encore plus nombreuses dans la moitié sud. Elles remonteront, c'est vrai, un peu dans les régions du nord-est en cours d'après-midi et surtout soirée. Et puis on peut continuer comme ça, c'est-à-dire pour la journée de jeudi, même chose, les nuages seront un peu plus nombreux dans la moitié nord avec des averses pratiquement partout. Il y en aura quand même un peu plus dans l'est et le sud que dans les régions du nord-ouest, mais on prendra le parapluie quasiment partout. Même chose pour la journée de vendredi. Samedi pourrait être une journée exécrable dans beaucoup de régions, notamment dans la moitié est. C'est toujours près de l'Atlantique que l'on aura plus d'éclaircies, le tout avec des températures en baisse qui ne seront plus de saison, forcément, plus de nuages, moins de soleil. Pour la journée de dimanche, ça devrait s'améliorer un peu dans l'ouest, mais encore des nuages et de la pluie dans l'est. Et puis en début de semaine prochaine, de nouvelles perturbations ont l'air d'arriver. Donc pour le début du mois de mai, oui, non, c'est pas terrible avec des nuages, de la pluie et des températures qui auront du mal à être de saison.
Bon, bah écoutez, on peut pas dire que les perspectives sont excellentes.
Non, elles sont pas excellentes.
Elles peuvent évoluer.
J'espère. Voilà. Donc c'est pour ça, je reviens demain avec de l'espoir.
Un petit coin de ciel bleu, c'est pas mal pour la météo à 7 jours. Merci beaucoup, Louis Baudin. À demain matin.
RTL. Comme ça.
Et nous partons à présent pour Carcassonne. En 2013, l'usine de desserts surgelés Pilpa fermait en laissant sur le carreau une centaine de salariés. Une partie d'entre eux a tenté de créer leur propre marque de crème glacée en utilisant les machines de l'usine. Et vous allez l'entendre, eh bien c'est un succès. Bonjour Patrick Hisson.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Le développement de la marque Belle Aude connaît une croissance à deux chiffres. Elle vient de célébrer son 7e anniversaire et pourtant le pari était loin d'être gagné à l'avance.
Oui, un pari un peu fou pour beaucoup. D'ailleurs, ils n'ont été qu'une vingtaine à choisir d'investir leurs indemnités de licenciement dans une SCOP, une société coopérative et participative. Parmi eux, Christophe Barbier, l'ancien délégué du personnel CGT, Il est aujourd'hui le président de la SCOP.
J'ai dit, mais c'est pas possible, on va se battre. On est des ouvriers salariés qui ont un savoir-faire. Pour nous, c'était notre façon de dire, ben, nous, on va construire.
Maïté a décidé de foncer à ses côtés.
Ben, c'est un coup de poker un peu. Hein, donc, après, il s'agit d'y croire. Hein.
Pour y parvenir, Maïté, qui avait travaillé durant 30 ans à la production, a changé de métier.
Et à la suite donc, de la fermeture, eh ben, je me suis retrouvée comptable. Une formation, de la motivation, de passer des nuits blanches à arriver que de chiffres. Et voilà.
D'autres ont quitté la chaîne pour se retrouver commerciaux.
Il y a des anciens ouvriers de fabrication qui sont aujourd'hui chefs de secteur, qui font toute la journée, sont sur le terrain pour valoriser nos produits en grande surface. Elle est là, la belle histoire aussi.
Et le résultat dépasse aujourd'hui toutes les espérances. La production tourne à plein régime.
Oui, alors on est sur la ligne de production qui fait des pots bio aujourd'hui. C'est des pots de 550 ml qui sont faits pour vendre en grande surface avec une croissance constante. Et à chaque fois, on fait un prévisionnel en fonction de notre stratégie commerciale d'année en année, d'avoir une croissance de 10% de plus. On est à peu près dans les 700 000 à 800 000 pots par an.
En pleine année Covid, le chiffre d'affaires a augmenté de 16% en 2020.
Quelles sont, Patrick, les raisons du succès de la Belle Aude ?
Eh bien, il faut d'abord parler de la cohésion de l'équipe. 24 salariés aujourd'hui, tous sont régulièrement consultés et intéressés par les résultats avec un 13e et même parfois un 14e mois. Sébastiana est opératrice de production depuis 27 ans.
C'est une SCOP, c'est pas pareil. Hein. C'est plus convivial, plus soudé. Et comme on se connaissait tous, il n'y a pas de problème d'hiérarchie. On a plus de liberté.
Ça se passe très bien.
Heureusement, oui. D'ailleurs, il y a la bonne ambiance. On mangeait là, avec le Covid, c'est plus problématique parce qu'en basse saison, on se faisait des repas et on mangeait tous ensemble là-haut.
Le terme de grande famille est souvent évoqué et le président Christophe Barbier ne veut surtout pas qu'on l'appelle patron.
J'aime pas le mot patron, moi. On est responsable de notre entreprise. C'est-à-dire, quelle que soit la fonction que vous avez, chacun de nous, on est assez intelligent pour savoir que derrière tout ce qu'on fait, ça va générer de la richesse humaine, de la richesse aussi sur la rentabilité. Ça va servir pour un collectif qui est cette coopérative. Le mot patron, c'est un mot où il y a une frontière.
Et puis, c'est évidemment le principal pour les consommateurs. La Belle Aude produit des glaces artisanales avec 35 parfums où les achats de proximité sont privilégiés. Ce couple a carrément craqué.
Les glaces sont super bonnes. Et puis, ils font avec des produits régionaux, les fruits, enfin, les parfums, c'est vraiment bon. On voit que ce sont des glaces artisanales très onctueuses.
Et c'est local, c'est carcassonné.
Et carcassonné en plus.
Les étoiles, lequel que tu préfères, le...
À moi, le caramel. Voilà. Ça, c'est... Le caramel, c'est ma passion.
Ça prouve qu'on peut être aussi le responsable de la CGT et devenir le président d'une entreprise après.
Et voilà.
Rien n'est impossible dans la vie. Avec un peu, il faut y croire. Et puis, c'est très bien.
Christophe Barbier y croit plus que jamais. Il ne compte pas son temps, beaucoup plus que 35 heures par semaine.
Mais c'est pas grave. On fait plus de 10 heures par jour, mais on le fait avec le cœur. Donc avec le cœur, ça compte pas.
Vous êtes heureux aujourd'hui ?
Très heureux, très fier. Et j'ai dit que c'est le début d'une encore de l'histoire, parce que je pense qu'il y a encore du potentiel à travers nos produits et notre savoir-faire interne. On a des compétences et des personnes qui ont une richesse extraordinaire. C'est super.
Et l'objectif de la Belle Aude, c'est désormais d'atteindre au moins 30 salariés d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Patrick Hisson pour ce reportage optimiste en région.
Passez une bonne matinée sur RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h40 et ce matin, Isabelle Choquet, vous vous êtes arrêtée sur un article qui vous a visiblement beaucoup touché.
Oui Yves, j'étais plutôt partie pour vous parler de patrimoine ou de sport. J'avais de bien bonnes histoires à vous raconter, des histoires qui donnent le sourire. Et puis j'ai été happée par un article du journal La Croix, par ce titre entre guillemets. Papa a fait une grosse bêtise et ma maman est morte. Et pour une fois, moi, j'ai rangé mon sourire parce que cet article à hauteur d'enfant, je ne pouvais pas l'ignorer. Il m'a bouleversée, pour tout vous dire. La Croix revient sur un féminicide qui a été jugé la semaine dernière aux assises du Maine-et-Loire. Un homme qui a tué sa femme il y a 4 ans d'une dizaine de coups de pied en plein visage sous les yeux de ses enfants. Ils avaient 5 ans et 18 mois. Elle s'appelait Séverine, elle avait 29 ans. C'était une chic fille, apparemment une fan de foot, surtout l'OM. Avec Grégory, tout était allé très vite. Le premier enfant, Kylian, la maison près de Cholet, et puis le deuxième bébé, Élie. Grégory travaillait beaucoup, chef d'équipe dans une entreprise de volaille. Séverine s'occupait de tout dans la maison. Les amis témoignent, il lui parlait mal, il la rabaissait. le couple part à la dérive. Et puis, un jour, Grégory découvre que sa femme a une liaison. Alors, il se sépare. Lui, il plonge dans la dépression, mais il refuse de se soigner. Malgré tout, Séverine continue à lui amener les enfants. Il faut bien qu'il voie leur père. C'est là qu'il commence à la frapper, une première fois sur les cuisses. Et puis, deux semaines plus tard, il lui fracture le nez. Elle porte plainte, mais aucune mesure de protection n'est mise en place. Alors, Séverine commence à avoir peur. Un jour, Kylian, son petit garçon, lui raconte que papa a dit qu'il allait tuer maman. Alors elle prend une assurance vie pour ses enfants. Le petit garçon, il parle aussi au mari de sa nounou. « Toi, tu aimes beaucoup Tata parce que tu la tapes pas et tu lui tires pas les cheveux. » Un soir, Kylian veut donner des coups de pied à sa mère. La nounou lui explique que non, on ne tape pas sa maman. Il lui répond « Mais si, papa le fait. » Finalement, au fil des semaines, Séverine reprend confiance. Tout va bien apparemment. Elle reprend confiance à tort. Le 4 avril 2017, dans la cuisine familiale, la discussion dégénère et Grégory s'acharne à coups de pied. Donc, 7 fractures au niveau du visage, dit l'expert médico-légal. Du sang partout, sur le sol, les placards, les murs, au plafond. Kylian jouait dehors au tracteur, mais à ce moment-là, il est rentré pour retrouver son petit frère. Il voit tout. Au procès, une vidéo a été diffusée, un entretien réalisé entre un gendarme et le petit garçon le lendemain de la mort de sa mère. Le petit bonhomme de presque 6 ans est assis sur une chaise. Avec ses mots d'enfant, il raconte l'impensable. « Maman, elle était à la maison et papa, il a poussé maman et puis lui a donné un coup de pied. Il y avait plein de sang partout et après j'ai dit que j'aurais plus de maman. » Kylian explique qu'il s'est mis à pleurer avec son petit frère. « J'ai tapé papa parce que moi je voulais l'arrêter. Je voulais aussi appeler l'hôpital pour qu'on la mette dans le lit de l'hôpital. Comme ça après, elle sera plus morte. » Ça, c'était il y a 4 ans. Depuis, les deux gamins vivent avec leur grand-mère maternelle. Ils travaillent bien à l'école, d'après ce qu'elle dit. Ils ont des copains. Mais Ellie réclame parfois sa mère et Kylian continue à faire des cauchemars. Aujourd'hui encore, il éprouve de la culpabilité parce qu'il n'a pas réussi à empêcher son père de tuer sa mère. Voilà. Il n'y a rien à dire. Il faut juste lire l'article de La Croix et essayer de ne pas pleurer.
Merci Isabelle Choquet. On va retrouver Laurent Gérard dans un instant sur RTL.
7h, 9h30. RTL Matin, 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
8h46, en présence de Philippe Devilliers qui est resté avec nous, je peux enfin
fidèle
dire...
Fidèle auditeur.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Et bonjour chère Mademoiselle Jade.
Eh bien bonjour cher Monsieur Calvi. Ben, vous êtes encore là effectivement Philippe Devilliers.
Oui, je suis comme le pec citron. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Tu n'as qu'à presser, fille de radio.
Oui, non merci, ça ira.
Je t'annonce que je rejoins le putsch des généraux. Hein ? Alors, selle mon cheval, la gueule. Qu'on sonne l'olifant.
Ouh là là, c'est moche l'olifant.
C'est très moche.
Non, arrêtez ça.
Il faut combattre l'ennemi de l'intérieur. Hein, bien, dans les murs de ce studio. RTL est colonisé.
Quoi ?
La preuve. C'est Alibaba Ventura qui m'a passé à la question. Et j'aperçois Louis Bédouin qui va encore nous annoncer une tempête de sable. Quant à Cyril Lignac, je suis sûr qu'il nous prépare un couscous boulette.
Non, pas du tout. C'est soit du poisson, soit des fruits confits aujourd'hui.
Ouais, du poisson, un filet de barbu. Hein, et des fruits confits, bravo. Hein. Des figues, des dattes, et demain des cornes de gazelle. Bonjour, Macron Sunday. Et ne m'invite pas à dîner ou j'en fais un livre.
Le gouvernement, vous le savez, va lancer une campagne de communication autour de la vaccination. Il s'agit notamment de toucher les jeunes qui seraient les moins enclins à se faire vacciner. Partons à l'Élysée.
Ah. Emmanuel. Mais Brigitte, je m'occupe de ma loi sur le séparatisme. Faut pas me déranger. À propos de séparatisme, tu ferais mieux de te séparer de ton premier ministre. Ce monsieur Castex est un ringard. On ne s'est pas emmerdé à faire des vidéos YouTube avec des jeunes, McFly et Carlito, pour finir avec Sheila qui se fait vacciner. Oh, et ça recommence. Cellule de crise des Macron, j'écoute. Allô Brigitte, Céline Renaud. Alors comme ça, le petit a choisi Sheila pour faire la promo du vaccin. C'est pas lui, c'est Castex. C'est pas sérieux, Sheila, c'est une gamine. Il faut une personne d'expérience qui sait parler aux jeunes. Vous pensez à qui, Lynn ? À moi, bien sûr. Je pourrais même adapter le tube de ma copine Ayana Kamura. Oh, AstraZeneca. Il n'y a pas moyen, AstraZeneca. Je n'ai pas un catin, AstraZeneca. Jean Kachana, bébé, tu dis ça. Astra.
Grégory Doucet, le maire de Lyon, est actuellement en congé paternité pendant 11 jours pour accueillir son 4e enfant. Mm-hmm. Bonjour Gérard Collomb.
Bonjour mademoiselle Jeanne.
Oui.
Je suis évidemment candidat pour le remplacer.
Ah ben non, la place est déjà prise. Le remplacement est assuré par sa première adjointe.
Ah, c'est dommage. En 11 jours, j'aurais eu le temps de réparer quelques-unes de ces conneries. Il y a bien un espace de revégétalisation éco-citoyenne que j'aurais pu bétonner. C'est ça. Ou un square Camélia Jordana que j'aurais pu remplacer par un bon bouchon violet.
Vous n'avez pas l'air de beaucoup l'aimer, hein.
Si on veut prendre des congés, on ne choisit pas le métier de maire. On travaille à la poste. Puisqu'il aime faire du vélo, il n'a qu'à faire facteur.
Non, mais écoutez, en même temps, il montre l'exemple. En prenant son congé paternité, il invite les hommes à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants.
Laissez-moi rire. Il se dit écologiste et il fait 4 enfants. Quand on sait ce que ça génère comme pollution à un enfant, à ce rythme-là, la famille Doucet aura bientôt le bilan carbone de la Chine. Un deuxième trou de la couche d'ozone va apparaître au-dessus de la maison des Doucet, je le vois.
Bon, vous exagérez. Le pouvoir vous manque, c'est ça?
Ce n'est pas le pouvoir qui me manque, c'est ma ville de Lyon. Et ça me fait de la peine pour la capitale des Gaules. Mais je me console en me disant que Guignol n'a jamais été autant à l'honneur.
Tournons maintenant une page de publicité.
Oui.
Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Nous sommes en pleine saison des asperges. Avec une bonne sauce mousseline, c'est délicieux. En ce moment, j'en mange tous les jours. Sauf que moi, les asperges, j'aime pas ça parce que ça sent mauvais quand on fait pipi. Du coup, je mange que la sauce mousseline. Résultat, j'ai pris 3 kilos en une semaine et mon partenaire, comme j'aime, refuse de me faire mon chèque de 500 000 boules. Alors si vous voulez m'aider, vous pouvez acheter ma perche à selfie. Je l'ai mise en vente sur Le Bon Coin. Et vous pouvez acheter aussi mon livre où je raconte comment mon papy Quetard, il a été mettre son asperge dans le cabas de Marilyn Monroe.
Oh non.
Qui elle aussi aimait bien sa sauce mousseline.
Oh non, c'est pas possible.
Sur ce, je vous laisse. Il faut que j'aille écrire le volume 4 des aventures de Mamie Cocu pour pouvoir payer mes impôts. Alors merci Mamie Cocu et papy Quetard.
Le gouvernement envisage donc une grande campagne de communication avec l'aide des principales chaînes de télévision pour encourager les Français à se faire vacciner, notamment à l'AstraZeneca, qui ne bénéficie pas d'une bonne publicité. Imaginons comment les papes de la télé d'antan s'y seraient pris. Je veux parler bien sûr de messieurs Guy Lux et Léon Zitrone. Ah.
Bienvenue à ce top aux intervilles de l'Eurovision de la vaccination. On a passé quelques semaines, voire quelques mois ensemble ici. On n'est pas en Israël, ni chez les Rosebif. On connaît les grades papiers de l'administration française. Ça risque de durer. Ouais, je vous dis, j'en profite pour passer un message personnel à ma charmante épouse Paulette. Paulette, ça sert à rien de me laisser la bectance au chaud. Sors le chien, finis tes mots fléchés, enlève tes bigoudis, mets la viande dans le torchon. N'attends pas, je suis pas prêt de rentrer à la bicoque. Et pour vous faire rire, cette campagne de vaccination qui sera sans doute mémorable, on va tout de suite retrouver notre ami Léon Zitrone, Léon au vaccinodrome de Boulogne-sur-Mer. C'est à vous, mon cher Léon. Guy Lux, c'est bon Léon, vous m'avez pété les tympans, j'ai les oreilles qui saignent. Pas besoin de gueuler comme un goré, on vous entend très bien. Et nos téléspectateurs aussi. Ils nous écoutent sur leur radio là, 4000 Dolby Surround. Alors, calmez-vous et baissez la pression, mon père Léon. Jean Castex en personne vient de livrer 10 000 doses d'AstraZeneca. J'attends donc fébrile la venue en masse de milliers de Français. Eh bien justement, on va faire tout de suite le point au standard SVP 11-11 Basel 39 avec Gennaro. Gennaro, combien de Français veulent de l'AstraZeneca? AstraZeneca 0. AstraZeneca 0. AstraZeneca 0. Ah ben oui, c'est bon, Gennaro, on a compris. Quand le macaroni, zéro. Ça se dit pareil dans toutes les langues, on va pas faire la soirée là-dessus. Alors je vois sur mon écran de contrôle Téléfunken 4 couleurs que la charmante Simone Garnier nous appelle pour saluer les sponsors Ripolla pour le maquillage et Jardiland pour la coiffure. Vous êtes très embottée, ma chère Simone.
Oh, merci Guy. On nous informe que selon l'Agence européenne du médicament, les avantages du vaccin Johnson & Johnson l'emportent sur les risques, ajoutant toutefois la formation de caillots de sang aux effets secondaires.
Ouais, l'Union européenne a décidé
décidément un sens inné de la communication. Les cailloux sans, ça me fait penser à un nouveau message personnel pour mon épouse. Paulette, demain, pense à prendre du boudin chez le charcutier. Guy Lux, au vaccinodrome de Boulogne-sur-Mer, où je suis, un quart de personnes âgées s'en prennent à moi en hurlant « On veut du Pfizer !» Un petit vieux en brandissant sa canne vient de casser mes lunettes. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. C'est pas plus mal, mon cher Léon, la vaccination française, le mieux, c'est encore de ne pas l'avoir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau top aux intervilles de l'Eurovision de la vaccination avec mon invité vedette Olivier Véran pour une soirée spéciale. Cocktail vaccinal, il va tout nous mettre dans son shaker. L'anti-Covid, l'anti-panude, l'anti-gel. Remis tout ça et ça servira à rien, mais ce sera beau à voir. Ici, cognac j'ai, à vous le confinement pendant 30 ans.
Eh ben on peut dire que vous nous avez bien déconfiné.
Bien, merci.
Oui. On essaye.
Je salue vos camarades et co-auteurs Jérôme Deverdier, Stéphane Rosé, Pascal Fioretto qui nous accompagnaient, Philippe Devilliers qui est venu nous retrouver dans ce studio. On vous retrouve, vous, sur le site rtl.fr et puis demain matin.
Eh ben demain.
Avec plaisir. Merci à toute l'équipe. Cyril Lignac va nous donner une recette de fruits confits.
Oui, Il faudrait déconfit.
Il va déconfiner le fruit confit et c'est dans un instant sur RTL.
RTL Matin. RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h57, bonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Pour vous demander des conseils, eh bien nos auditeurs vous posent leurs questions sur rtl.fr/participer. Alors Francine, elle avait une envie de fruits confits. Tiens, alors il paraît que c'est long mais pas compliqué à faire, nous dit-elle. Par quel fruit commencer pour se lancer? Quel matériel et quel type de sucre choisir? Y a-t-il des astuces pour ne pas les rater et comment les conserver? Voilà un point très complet, on vous écoute.
Alors déjà, les fruits confits, c'est vrai que c'est beaucoup de temps de travail. Parce que c'est au moins entre 6 et 10 jours pour les confire. Mais la première étape, c'est déjà de choisir des fruits comme l'ananas, les écorces d'orange, le kumquat. Pour les faire maison, c'est toujours mieux de prendre des fruits qui se coupent plutôt que des fruits comme les figues entières qui vont mettre vraiment beaucoup de temps à confire.
Alors on a
la première étape.
Hein.
La première étape, on prend 500 grammes de fruits, donc des écorces d'orange ou des tranches d'ananas, ou même les petits kumquats. On les coupe et on les ébouillante pendant une minute. On fait bouillir une grande casserole d'eau et on les pré-cuit. Comme ça, ça va casser la fibre qui va lui permettre après d'accueillir le sucre. Deuxième étape, on met 250 grammes de sucre à bouillir avec 30 centilitres d'eau. Et une fois que ça boue, on ajoute les fruits. On les laisse tout doucement frémir pendant 2-3 minutes quand c'est bien chaud et on coupe le feu et on laisse confire 24 heures. Ensuite, on répète l'opération 3-4 fois pour bien que le fruit donne son jus au sirop et que le sirop rentre dans le fruit. On fait ça 4-5 fois sur 4-5 jours. Et pour terminer, alors là vous allez sauter en l'air, on rajoute encore du sucre.
Mais c'est pas vrai.
Donc on remet encore 250 grammes de sucre, on laisse confire une dernière fois, et ensuite on les sort, et on les laisse reposer, on les met dans des bocaux.
Donc en fait c'est facile à faire, mais ça prend du temps, ça se joue
alors
sur la durée.
Alors en fait c'est facile à faire,
voilà.
Ouais, sauf que c'est sur plusieurs jours, parce qu'il faut le temps que ça cuise, il faut le temps que ça macère, et il faut le temps que le fruit absorbe le sucre. Voilà.
Merci beaucoup, cher Cyril Lignac. Tous vos conseils sont sur le site rtl.fr comme chaque jour. Et je peux donc annoncer clairement RTL, il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Un point sur l'actualité tout de suite avec Jérôme Florin.
Quatre jours après l'attaque djihadiste du commissariat de Rambouillet dans les Yvelines, un conseil restreint de défense et de sécurité nationale s'ouvre à l'instant à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Un nouveau texte contre le terrorisme sera dévoilé demain. Il permettra notamment de prolonger le suivi des individus condamnés pour terrorisme après leur sortie de prison. La France a franchi hier la barre des 6000 patients en réanimation, un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis plus d'un an. Emmanuel Macron maintient son objectif d'une réouverture par étapes des restaurants entre mai et juin. Ultime étape pour le Brexit, l'accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni devrait être approuvé ce soir par les 27 à Bruxelles. François Pinault, au secours des Girondins de Bordeaux, menacé de dépôt de bilan depuis le retrait de son actionnaire. Dans une lettre ouverte, le milliardaire appelle ses collègues propriétaires de grands crus bordelais à se rassembler pour un projet de reprise du club. Première demi-finale aller de la Ligue des Champions ce soir entre le Real Madrid et Chelsea. Demain, le PSG affronte Manchester City.
aussi. Et puis, la retraite anticipée pour Johan Huger en rugby à 33 ans. L'ailier du Stade Toulousain pensait décrocher son dernier titre de champion de France, mais il souffre depuis samedi d'une rupture du tendon d'Achille et c'est donc terminé. Johan Huger compte 62 sélections avec les Bleus.
Ponctuel et précis, c'était Jérôme Florin. Maintenant, nous allons...